Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Donc, on est dans le cadre du contrat local de santé qui a été signé par Quimperlé Communauté et les partenaires il y a déjà 3 ans et dans lequel on a instauré maintenant de manière régulière 4 rendez-vous santé, au sens très large, ouverts au public, donc pour aborder des thématiques différentes et faire intervenir des experts qui viennent de tout près ou de plus loin pour élargir un peu notre connaissance de tous les champs qui peuvent toucher à la santé. Donc c'est le 3e rendez-vous pour l'année 2019 et l'avant-dernier, donc puisqu'il y aura un dernier rendez-vous pour cette année au mois de décembre, le 5, sur les conduites addictives. Donc ce soir, vous allez entendre 4 intervenants différents donc sur le sujet de l'hypnose au service de la santé, hein, pas de tout ce qui peut être fait avec l'hypnose, parce qu'on a estimé que c'était trop pour une seule soirée. Donc là, c'est vraiment ciblé volontairement sur l'hypnose au service de la santé. Je vais les laisser se présenter ensuite. Juste au niveau de l'organisation pratique, donc vous avez pu trouver sur vos chaises des questionnaires, enfin d'une part le programme pour l'année. Donc lors du prochain rendez-vous au mois de décembre sera distribuée la programmation de l'année 2020 avec à nouveau 4 rendez-vous sur des thématiques différentes. Vous avez également un questionnaire qui vous permet de nous faire un petit peu le retour de vos impressions de la soirée et également des suggestions de thématiques à aborder dans les années qui viennent lors de ces rendez-vous. Donc si vous voulez bien avoir la gentillesse de remplir ce questionnaire et puis de le déposer sur les tables dans l'entrée en partant, c'est parfait. Et la dernière chose d'ordre pratique, c'est que la soirée, aussi bien la partie présentation qu'ensuite les échanges, puisqu'il est prévu aussi un temps d'échange, sont enregistrés et seront accessibles donc sur un format podcast, enfin audio, sur le site internet de Quimperlé Communauté d'ici quelques jours, quoi, le temps de le rendre accessible sur le site. Voilà ce que je voulais vous dire avant de démarrer. Et je vous souhaite une bonne soirée. Puis je laisse donc les intervenants se présenter.
Bonjour, donc moi je suis Hélène Aux-Enfants, je suis médecin aux urgences du GHBS, donc Lorient et Quimperlé du coup maintenant, voilà. Un peu plus. Ben, on reparlera après, moi je présenterai une petite vidéo sur ce qu'on fait en hypnose au GHBS. Moi dans ma partie c'est plutôt hypnose et douleurs aiguës, voilà, parce qu'aux urgences c'est un peu compliqué de faire de l'hypnose formelle. Mais vous comprendrez un petit peu plus après comment ça fonctionne. Et on est maintenant 8 ou 9 praticiens formés aux urgences, un peu plus sur l'Orient que sur Quimperlé, mais enfin ça commence à venir. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander quand vous venez chez nous, si jamais ça peut vous servir. Voilà.
Bonsoir, je suis Eric Millet, médecin anesthésiste au bloc opératoire de l'hôpital de Lorient. Donc moi aussi je me sers beaucoup ou du moins régulièrement de l'hypnose pour le domaine plus de la douleur aiguë. Je vous présenterai après donc mon topo. Ce qu'on avait trouvé plus pratique, c'est de présenter nos différents topos et ensuite passer aux questions-réponses, qui est toujours très enrichissant et qui est peut-être même plus le but de ce genre de soirée plutôt que d'avoir des exposés comme ça un petit peu magistraux. Donc, je vais passer la parole à Pascal.
Voilà. Bonsoir, moi je suis Pascal Lagnuré, je suis infirmière anesthésiste au GHBS aussi. Je travaille donc au bloc opératoire, maternité et salle de réveil. Et je me suis formée en 2006 à l'hypnose. Et je vais vous présenter ce que l'on a mis en place au niveau des infirmières anesthésistes et la consultation hypnose qui a été mise en place.
Bonsoir, Geneviève Kabilic, je suis sage-femme libérale à Quimper et j'exerce l'hypnose dans le cadre surtout de la préparation à l'accouchement, mais également suivant les attentes des patientes en pré- et en post-natal.
Alors pour démarrer cette soirée, avant qu'on vous propose un diaporama, une explication théorique et puis les mises en pratique que l'on fait, nous, à chacun à notre niveau. On a pensé vous faire vivre un peu directement ce que c'est peut être une transe hypnotique, pour ceux qui le souhaitent, Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vivre l'expérience de ce que peut être une hypnose, une transe hypnotique. On appelle ça, nous, transe hypnotique. Donc, pour cela, je vais vous inviter à vous asseoir déjà confortablement, poser les manteaux, les sacs. Pensez à mettre les téléphones portables en silencieux. Tout ce qui est à droite est à droite, les pieds à plat sur le sol. Voilà, le pied droit à droite, le pied gauche à gauche, la main droite à droite et la main gauche à gauche. Voilà, et puis, si tout le monde est confortablement installé, on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc, on est le mardi 23 septembre, il est 20h14. Avant d'aller, je vais vous inviter, moi, à aller dans un endroit que je ne connais pas, mais que vous connaissez bien, parce qu'on va faire, du coup, une transe de groupe. C'est-à-dire que je vais vous inviter à aller dans votre cuisine. Mais avant d'aller dans votre cuisine, vous allez d'abord prendre des points de repère ici. Plus vous vous sentirez ici en sécurité, plus ce sera facile d'aller dans votre cuisine. Donc vous allez d'abord, avec les yeux, prendre un point de repère, un peu au loin. Ça peut être une forme, une couleur, une lumière, un point de repère que les yeux retrouveront à votre retour. Et puis au plus près de vous, un point aussi que les yeux peuvent observer. Voilà. Puis une fois que les yeux ont pris ces points de repère, c'est les oreilles aussi qui vont prendre le temps d'observer un petit peu la sonorité du lieu. Donc on peut entendre un peu la ventilation des vidéoprojecteurs. Il y a aussi ma voix qui vous accompagne et qui pourra être la voix de quelqu'un d'autre. Vos oreilles pourront transformer mes mots, transformer ma voix. Puis peut-être qu'il peut y avoir aussi des sonorités à survenir à un moment ou à un autre, ou pas. Eh bien, les oreilles peuvent les laisser passer ou s'en servir pour vous, pour aller encore plus profondément faire ce qui est bon et utile pour vous. Voilà. Le corps, voilà, confortablement installé. Il sait aussi qu'à tout moment, il peut bouger pour rester toujours confortable. Et donc maintenant, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et puis, sur l'expiration, si ça vous convient, quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez alors laisser les paupières se fermer confortablement, voilà, à votre rythme. Et lorsqu'elles sont ainsi, confortablement abaissées, eh bien, il est peut-être plus facile alors pour vous de pouvoir laisser se projeter sur l'écran des paupières les images de votre cuisine. Et là, maintenant, alors, je vous invite à vous installer dans votre cuisine. Voilà, vous y êtes, dans votre cuisine. Je ne sais pas si vous êtes assis, debout, dans la posture qui vous convient. Et les yeux ont plaisir à observer la luminosité qui règne en cet instant. Je ne sais pas si c'est le matin, le midi ou le soir. S'il y a une ou plusieurs lumières allumées, si ce sont les rayons du soleil qui illuminent la cuisine. Les yeux observent les couleurs de ce décor familier, la couleur des murs, la couleur des placards, des éléments de la cuisine. Tranquillement. Sans rien faire, que laisser faire, juste être là. Laisser les yeux observer tout cela. À droite, à gauche. Et puis en même temps que les yeux observent tout cela, il y a aussi le corps qui en profite pour capter les sensations. La température idéale pour vous. Dans votre cuisine, peut-être des contacts, les pieds au sol, peut-être la main en contact avec quelque chose, et puis aussi des odeurs probablement que les narines peuvent capter. Est-ce qu'il y a un parfum d'un plat qui mijote, ou bien d'un bouquet de fleurs ou de toute autre chose? Les oreilles aussi, elles peuvent prendre plaisir à écouter les sonorités de cette cuisine. Tranquillement. Les bruits familiers, caractéristiques. Peut-être le bruit de couvert, d'un verre, d'une assiette, d'un plat qui mijote. Et vous continuez comme ça, tranquillement. À capter toutes ces sensations, toutes ces odeurs, toutes ces couleurs, tous ces parfums. Et là maintenant, eh bien, je vous invite à goûter quelque chose. Vous avez décidé de pouvoir manger là quelque chose dans votre cuisine, quelque chose qui vous plaît. Peut-être que c'est quelque chose de sucré, de salé, d'épicé, d'acide, ou juste comme vous l'aimez. Peut-être qu'il vous faut éplucher, ouvrir un emballage. Vous faites ce qui est nécessaire et puis vous prenez le temps de déguster ce que vous avez choisi de déguster. Les papilles gustatives, voilà, ont plaisir à capter toutes ces sensations. Voilà, peut-être que ça peut être étonnamment agréable de manger ou peut-être de boire ce que vous avez envie là maintenant de déguster. Voilà, et vous prenez le temps tranquillement de faire tout ce qui est intéressant en cet instant dans votre cuisine. Juste le temps qui tend, qui se détend, qui peut faire du bien. Le temps hypnotique, où les secondes paraissent des heures. Voilà. Et puis maintenant, alors, je vous invite à garder un élément de cette expérience dans votre cuisine. Est-ce une odeur, une couleur, une saveur? Une sensation, une émotion. Quelque chose que vous gardez dans un petit coin de votre esprit et que vous saurez utiliser quand vous en aurez besoin, quand vous en aurez envie. Comme un petit cadeau que vous faites à vous-même. Voilà. Vous remercier pour l'expérience que vous avez accepté de vivre vous-même. Voilà, et puis une fois que vous avez gardé ce petit élément, ben vous allez pouvoir alors tranquillement, à votre rythme, revenir dans le présent, ici et maintenant, de cette salle. Retrouver les sensations du corps assis sur cette chaise, les sensations des pieds au sol, voilà, vous étirez, bâillez, retrouver les sonorités de la pièce, ma voix, la sonorité du vidéoprojecteur. Et puis quand c'est le moment pour vous, voilà, reprendre une grande inspiration, remettre chaque partie du corps en mouvement, vous étirez, bâillez, puis ouvrir les paupières et retrouver avec vos yeux les points de repère que vous avez pris au départ. D'abord au plus près, et puis ensuite, avec vos yeux, le point de repère que vous avez pris au plus loin. Et puis surtout, voilà, bien remettre du mouvement, la tête, les épaules, les bras, les mains qui ont le droit de se frotter, les pieds, pour bien revenir ici et maintenant à 20h23, en ce mardi 23 septembre. On est le 24 septembre. Il y en a une qui suit. Voilà, donc vous avez fait l'expérience de ce que peut être une transe hypnotique. Et puis maintenant, c'est plus facile peut-être de l'avoir vécu corporellement, d'avoir peut-être que pour certains, c'est la première fois que vous vivez cette expérience, et de pouvoir comprendre maintenant ce que l'on va vous expliquer et comment ça marche. Voilà. Donc je passe la parole à Eric.
Merci Pascal, c'est toujours une expérience très enrichissante et c'est toujours excellemment bien fait par Pascal, donc c'est toujours un vrai bonheur. Moi je vais commencer par vous parler d'abord de quelques définitions, quelques notions importantes qui ont déjà été évoquées dans l'exemple que vous venez de vivre, pour bien situer le cadre de l'intervention. Et j'aime beaucoup l'affiche qui a été faite pour cette soirée, c'est vraiment l'hypnose au service de la santé. L'hypnose, ça peut servir dans pas mal de circonstances. Vous l'avez certainement déjà vu autour de vous, des affiches pour l'hypnose de spectacle. Il y a des principes communs, mais nous, on se situe vraiment dans un cadre de santé qui est régi par les règles de la profession. Et donc, on se doit de tenir avec beaucoup de principes à respecter. Je ne vais pas détailler, mais on pourra en reparler après. Et ça me semble vraiment fondamental d'insister là-dessus pour dire que l'hypnose, c'est un moyen au service de la santé. Alors, dans différents cadres possibles, nous, on a choisi ce soir, vous avez vu avec les différents intervenants, on va pas mal parler de notre cadre habituel qui est surtout donc, la douleur aiguë au bloc opératoire, aux urgences, également avec les accouchements. Ça peut servir dans d'autres cadres de santé également. Je pense à certaines façons, par exemple, de se servir de l'hypnose dans ce qu'on appelle des hypnothérapies, par exemple pour le sevrage du tabac, des troubles du sommeil, des choses comme ça. Mais c'est toujours un cadre de santé qui est régi par des professions et des gens qui sont formés pour une profession et l'hypnose. L'hypnose, c'est un moyen, en fait, comme Pascal l'a dit, elle a utilisé un terme, je ne sais pas si vous avez fait attention, le terme de transhypnotique. L'hypnose, c'est un moyen pour vous installer dans une transe. On va revenir sur les définitions, mais l'hypnose, c'est le moyen. Alors, le problème avec ces termes-là, c'est qu'on est un petit peu obligé de faire des abus de langage, un peu par habitude, parce que ce terme d'hypnose, il a été choisi il y a longtemps. L'hypnose, ça veut dire le sommeil en grec, grosso modo, mais ce n'est pas du sommeil, on le verra, on va revenir après là-dessus. Et l'hypnose, c'est vraiment le moyen pour arriver dans une transe. Donc, voilà, on dit souvent vous êtes sous hypnose, mais en fait, c'est donc le moyen pour vous installer dans une transe qu'on appelle donc une transe hypnotique. La transe, donc, qu'est-ce que c'est? On va être obligé de passer par quelques définitions et puis quelques termes qu'on est bien obligé de redéfinir et au moins d'essayer de cerner, même si après, comme j'ai dit, on a tendance à faire un petit peu des abus de langage. On utilise beaucoup l'hypnose ericksonienne, ou du moins le terme ericksonien, parce que c'est Erickson, un médecin psychiatre américain, qui a recadré l'hypnose moderne, entre guillemets, et qui définit bien, je trouve que sa définition est vraiment intéressante, c'est un fonctionnement naturel, banal, de concentration mentale, le terme est important. Cette concentration, en fait, c'est surtout une focalisation de cette attention sur les facultés, pendant laquelle les facultés de l'esprit sont accaparées par un train de pensée. Voilà, donc en fait, on est extrêmement concentré sur quelque chose de vraiment particulier. Il faut retenir de tout ça que c'est surtout un phénomène naturel, comme quand vous rêvez ou quand vous voyez un enfant qui a la tête en l'air. Ou un exemple qu'on aime bien citer également, c'est la conduite automobile. Quand vous avez votre permis de conduire depuis un certain temps, vous avez l'habitude de conduire et vous allez d'un point A à un point B qui vous semble un petit peu lointain, c'est de l'autoroute, il n'y a pas de circulation, vous dites « je vais m'ennuyer ». Et puis souvent, la plupart des conducteurs ont fait cette expérience, quand vous arrivez à destination, vous dites « ah bah déjà ». Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous vous posez la question, eh ben, votre esprit il était ailleurs. N'empêche que vous êtes arrivé en bonne santé, votre voiture est entière, et voilà. Et donc ça, c'est une forme de transe hypnotique. Une sorte d'automatisme du corps qui conduit la voiture en sécurité, parce que quand il faut prendre telle bretelle, vous prenez telle bretelle. Si un véhicule devant vous freine, vous freinez aussi. Mais votre esprit, malgré tout, il est quand même ailleurs. Vous êtes en train de penser peut-être à votre cuisine, justement, ou des soucis que vous avez. Et parfois même, c'est là que c'est aussi intéressant, il y a certaines suggestions qui peuvent venir plus ou moins automatiquement pendant ce phénomène de concentration. Et vous pouvez envisager éventuellement déjà des solutions à certains petits problèmes, certaines questions que vous vous posiez. Voilà, donc il faut retenir quand même que c'est un phénomène naturel et qui fait partie de la construction de notre psychisme. Ça, c'est important. Là, je pense quand on dit les enfants, par exemple, qui ont la tête en l'air, qui sont en train de rêver, mais il faut aussi les laisser rêver parce que ça fait partie de leur construction mentale. Voilà. D'autres définitions très courtes que j'ai et qu'on voit régulièrement, que j'ai notées là, c'est l'état amplifié de conscience ou l'hypervigilance focalisée. Voilà. Pour essayer d'un petit peu de situer aussi les différentes trans dont je parle, on peut un peu schématiser, alors c'est très critiquable, mais on peut voir un petit peu les différents états de conscience, comme c'est noté ici, de l'éveil en allant vers le coma, avec une phase intermédiaire de sommeil. On voit bien que le terme de trans, il est classé dans le phénomène d'éveil. Donc quand vous êtes éveillé, vous êtes le plus souvent en conscience critique, parce que vous êtes capable d'analyser le ici et maintenant, comme Pascal a utilisé au début et à la fin de son intervention. Ici et maintenant, donc c'est tel jour, telle heure, vous percevez tout ce qu'il y a autour de vous, et quand vous sortez de votre transe, vous revenez bien ici et maintenant. Entre-temps, vous êtes parti dans votre cuisine. Enfin, votre esprit est parti dans la cuisine et vous étiez vraiment là. Voilà. Donc, vous avez cette conscience critique. Et puis, la transe. Alors, la transe, ça peut être spontanée, comme quand vous êtes... dans un côté plus positif, on dit maintenant plutôt transe créatrice, quand vous êtes devant un spectacle agréable, par exemple. Ça peut être négatif. Alors, maintenant, on dit plutôt transe d'alerte, parce que ça doit vous alerter sur quelque chose. Et ça peut être provoqué, comme vous venez de le vivre avec l'expérience que Pascal vous a proposée. Donc elle était provoquée par quelqu'un qui vous la suggère. Et ça peut être aussi une transe provoquée par vous-même quand vous pratiquez l'auto-hypnose. Alors on voit bien déjà avec cette sorte de classification que c'est pas du sommeil. Ça, on s'en était aperçu déjà il y a longtemps. À travers les enregistrements électroencéphalographiques des personnes qui étaient en transe hypnotique, et on voit bien que ce n'est pas du tout des tracés de sommeil. Les expériences plus récentes, notamment avec l'imagerie en IRM fonctionnelle, ont montré qu'il y avait bien des zones particulières du cerveau qui s'activent et qui ne sont pas du tout les zones du sommeil. J'en profite pour dire que, et revenir dans le cadre donc de cette soirée, si j'insiste sur ces expérimentations, ces arguments scientifiques, pour dire que l'hypnose, dans un contexte de soins, a maintenant des bases scientifiques au sens large, peut-être un peu plus que médicales, des bases scientifiques qui sont quand même assez solides, qui sont avérées, qui ont eu des démonstrations assez probantes plutôt récemment, on va dire, avec l'IRM fonctionnel. On pourra détailler ça plus tard si ça vous intéresse. Et puis, l'Académie de médecine, il y a quelques années, a donné, on va dire, un premier début de caution à certaines médecines complémentaires, dont l'hypnose, en suggérant quand même qu'il y ait des travaux supplémentaires qui soient développés. Mais on a quand même des cautions scientifiques assez sérieuses autour de l'hypnose dans le cadre de la santé. Voilà, ça j'y tiens assez parce que, comme je l'ai dit au départ, on est dans un cadre assez professionnel. Faire mes petites notes. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la transe ? Vous avez peut-être pu l'observer avec ce que Pascal vous a proposé tout à l'heure. Et les mots qu'on a déjà employés, il y a un terme qu'on utilise beaucoup qui est la dissociation. Alors cette dissociation, elle est plus ou moins importante. La dissociation, ça veut dire que vous êtes ici et ailleurs en même temps. Votre corps est présent, c'est l'exemple le plus fréquent. Votre corps, il est là, vous étiez dans la salle, mais votre esprit, lui, il était dans la cuisine. Ça, c'est la bonne illustration. Ça peut être une dissociation aussi entre une partie du corps et le reste du corps. J'en aurai d'autres exemples après avec les autres collègues, mais ça peut être une technique utilisée. Et puis après, des choses un petit peu plus complexes que moi j'aborderai pas, c'est une dissociation entre une partie de l'esprit et une autre. Voilà. Tout ça pour dire que le patient, il est acteur de son soin, il est spectateur en même temps de sa propre expérience, avec ce qu'on appelle également, une notion importante, un observateur caché. C'est-à-dire que même dans cette dissociation, Pascal est très habile et très forte dans ses, dans ses transes qu'elle provoque, mais elle n'aurait pas pu vous faire faire n'importe quoi. C'est ça qui est important, et j'en reviens aussi au côté très professionnel de l'utilisation de l'hypnose, c'est que en dehors simplement du cadre de la déontologie, même si on le voulait, on ne pourrait pas vous faire faire n'importe quoi. Alors un exemple que j'aime bien citer, c'est qu'on ne pourrait pas vous faire donner votre numéro de carte bleue, et puis la plupart du temps, la pudeur des gens est préservée, on ne pourra pas vous faire mettre tout nu, y compris dans les hypnoses de spectacle. Donc il y a toujours une part de vous qui reste quand même spectatrice de ce qui se passe pour vous protéger. C'est une protection. Une notion importante également pendant la transe hypnotique, c'est que d'abord, en fin d'intervention, il y a une sorte de réassociation, puisqu'on a parlé de dissociation, donc Pascal l'a bien formulé à la fin en vous disant, vous voyez, vous êtes revenu ici, il est tel jour, telle heure, vous retrouvez vos objets qui vous environnent. Et troisième notion importante pendant cette transe, c'est que vous êtes très suggestible. Là, je vais détailler un petit peu plus. L'exemple dans ce que vous avez vécu avec Pascal, c'est à la fin de la transe, elle vous a suggéré d'emmener une petite partie de l'expérience que vous avez vécue, de l'emmener avec vous et puis de vous en servir plus tard. Possible ou pas. Mais ça, on peut l'utiliser dans le domaine des soins pour suggérer justement un mieux-être, des solutions, un chemin vers la guérison. Dans les différents modes d'hypnose que nous, en tout cas, on utilise, on distingue un petit peu de façon peut-être arbitraire, mais en tout cas pratique, ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle ou informelle. C'est, d'autres termes, c'est la communication positive, la communication thérapeutique, la communication en contexte de soins. C'est aussi une forme de conversation que vous pouvez utiliser, pas simplement avec des patients, mais également avec des collègues, que vous pouvez utiliser aussi lors de certaines consultations. Ou des soins qui vous semblent simples. Donc là, vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes en train de faire de l'hypnose. C'est simplement un mode relationnel entre différentes personnes. Et puis une hypnose plus formelle, où là, le contrat, et le terme est important, le contrat est établi entre le soignant et puis le soigné dès le départ. On dit que on va utiliser cette méthode qui s'appelle l'hypnose pour un but précis. Alors, pourquoi utiliser l'hypnose? Là, je vais revenir dans un cadre que je pratique plus habituellement. Pourquoi utiliser l'hypnose dans le cadre du bloc opératoire? Donc là également, ce sont des intérêts qui ont été démontrés avec différentes études. On sait qu'on, grâce à l'hypnose, on peut diminuer la douleur, on peut diminuer le seuil de l'anxiété. On a des réveils qui sont souvent de meilleure qualité. On a des durées d'hospitalisation qui sont raccourcies. Des nausées, vomissements qui sont fréquents après les anesthésies générales, par exemple, qui sont beaucoup moins fréquents quand on utilise l'hypnose, etc. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. L'avantage, c'est, comme je l'ai souligné là, c'est qu'il y a le vécu du patient qui prend, grâce à cette technique-là, une certaine autonomie, mais il y a aussi un retentissement dans l'ensemble des soignants. Ça, on pourra l'aborder, on pourra le détailler. L'avantage de cette technique, comme je l'ai dit, c'est une technique aussi relationnelle, c'est qu'on met en place, dans toute une équipe de soins, on met en place une ambiance, au sens large, qui est vraiment différente. Quelques éléments clés pour que l'hypnose marche un petit peu mieux. Alors, il y a une formule que j'ai reprise là, qui est assez rigolote, c'est hypnose égale MC carré. C'est-à-dire simplement que la motivation, c'est important. Donc la motivation des patients, bien sûr. Tout à l'heure, quand Pascal vous a suggéré, est-ce que vous voulez partir dans votre cuisine, souvent c'est quelque chose de sympa, donc on a envie d'y adhérer. Et plus vous êtes motivé, meilleur sera votre vécu dans la cuisine. Et peut-être ce que vous avez ressenti était vraiment de bonne qualité. Vous avez peut-être encore le goût dans la bouche. Vous allez le retrouver plus tard. La confiance, c'est ce qui s'établit après le lien qui s'est créé entre le patient et le soignant et qui dépend de pas mal de choses, mais c'est ce qu'on appelle Le lien thérapeutique, par exemple. Voilà. Bon. Et donc, ce qui permet d'arriver à une coopération, parce qu'il y a vraiment une coopération entre le soignant et le soigné dans cette forme de soins. Ensuite, alors on peut se poser la question, et c'est tout à fait logique, si ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on décide de faire une hypnose formelle dans un bloc opératoire, et puis ça ne marche pas, pour différentes raisons, parce que la coopération elle n'est pas tout à fait là, parce que le patient perd de sa motivation, parce qu'il y a des stimulus douloureux très importants qui surviennent, parce qu'il y a des phénomènes extérieurs qui viennent parasiter l'expérience. Voilà. Et donc, j'en reviens à mon principe de départ. On est dans un cadre professionnel, on est dans un bloc opératoire avec des professionnels qui savent faire. Et l'hypnose, c'est un moyen. Ça veut dire un moyen, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Donc, on peut utiliser des compléments d'anesthésie, par exemple, si c'est le cas. Et puis, on peut aller jusqu'à une anesthésie générale. Et c'est pas grave. Malgré tout, ça sera toujours une expérience intéressante, à la fois pour, à mon avis, pour le soignant et pour le soigné, parce qu'il y a quand même eu cette envie de faire bien, cette envie de réussir, et on peut toujours positiver dans ce qui aura été tenté. Voilà, un peu de technique. Alors, je vais juste signaler deux, trois petits trucs, parce que les intervenants suivants vont plus détailler cette phase-là. Je me perds dans mes notes, hein, je suis désolé. En communication positive, dans ce qu'on appelle l'hypnose informelle, pour établir justement le lien thérapeutique, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans différentes situations, il y a une chose qui est fondamentale, c'est le premier contact, c'est ce qu'on appelle le langage non-verbal. Quand vous rentrez dans la chambre d'un patient, que vous avez les cheveux hirsutes, que vous êtes tout voûté, que vous ne sentez pas bien, que ça ne va pas, comment voulez-vous établir un bon contact et ensuite pouvoir faire un soin de bonne qualité? Ça va être difficile. Si votre voix, en plus, elle est de travers et que vous donnez l'impression de ne pas penser ce que vous dites, si on vous demande, par exemple, est-ce que ça va faire mal, et puis que vous regardez à côté et vous avez un temps d'hésitation un peu long pour dire non, ça ne va pas faire mal. Bon, les patients ont envie de comprendre que oui, ça va faire mal. Donc voilà, le paraverbal, c'est ça. Donc c'est important de penser ce qu'on dit et de le manifester. Ensuite, dans le langage verbal, alors on dit souvent que le langage verbal, c'est qu'une petite partie de tout notre langage, mais n'empêche qu'il y a quand même des mots, on l'a tous vécu, il y a des mots qui font du mal, et donc il y a aussi des mots qui font du bien. Donc je vous ai mis une petite liste là. On entend encore des fois des expressions comme ça, n'ayez pas peur, vous inquiétez pas, vous n'avez pas froid, ben oui, mais je vais piquer, bougez pas, ça vous n'aurez pas mal. Ben, tout ça, ces mots négatifs, c'est une forme de suggestion. Donc on peut utiliser d'autres termes. C'est une façon de faire qui instaure tout de suite un peu plus de calme et de rassurance. Voilà, alors ça aussi, je ne vais pas le détailler puisque ce sera fait ensuite, surtout par Pascal, mais les techniques qu'on utilise le plus souvent, nous, c'est le lieu de sécurité, c'est-à-dire un endroit où, là où tout à l'heure, ben, par exemple, la cuisine, ça peut être votre lieu de sécurité, un endroit où vous aimez bien vous isoler, pour être tout seul, pour être tranquille. Ça peut être aussi la réactivation d'un souvenir agréable, le souvenir d'un mariage, d'une grande fête, ou même simplement un endroit où vous aimez bien aller vous promener. Et puis des techniques, j'ai parlé tout à l'heure de dissociation d'une partie du corps par rapport au reste du corps, le gant de protection, mais là aussi, ça sera détaillé après. Voilà, donc pour conclure, simplement vous dire un petit peu où on en est au bloc opératoire à l'hôpital à Lorient. L'activité sous hypnose est en augmentation. Les débuts, ça date de maintenant une bonne douzaine d'années. Pascal faisait partie des pionniers quand elle s'est formée. Et au début, il y avait beaucoup de réticence autour d'elle. Et puis, avec beaucoup de persévérance et puis l'aide d'un petit noyau de collègues, et ben, finalement, ça s'est développé, ça fait tache d'huile. Comme beaucoup de techniques qu'on veut utiliser au départ, il y a des résistances, il y a des freins autour de vous. Et puis finalement, ben, quand on prend son temps, on arrive à développer quand même des belles choses. Maintenant, le nombre de gens formés dans le bloc opératoire, tout personnel confondu, est en augmentation. Et on fait venir les formateurs à l'intérieur de l'hôpital, ce qui permet de former de plus en plus de gens. Et puis c'est devenu un projet, alors je vous parlais de résistance, mais maintenant c'est devenu un projet institutionnel, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'hôpital qui décide de développer ces techniques dans un peu tous les services de l'hôpital, et enfin du moins ceux qui sont volontaires et moteurs là-dedans. Et on a vraiment quelques belles expériences, je pense toujours au service de radiologie. Voilà, Pascal vous parlera ensuite de la consultation la consultation hypnose qui a été mise en place dans le service d'anesthésie, qui est quelque chose d'assez spécifique. Donc je ne vais pas dire plus là-dedans. Communication en interne. Et puis les petits doudous, un petit mot particulier pour les petits doudous, c'est l'application en quelque sorte de l'hypnose plus à la pédiatrie. Vous avez peut-être entendu parler de cette association qui maintenant un développement au niveau national. Les petits doudous, ça part au début de l'hôpital de Rennes, avec là aussi un petit noyau qui a voulu appliquer l'hypnose en particulier aux soins aux enfants, dans les services de pédiatrie, dans les blocs opératoires, et puis qui maintenant, avec de la récupération de matériel qui est valorisé, permet de lever des fonds pour avoir un petit peu de matériel et pouvoir s'occuper des enfants qui ont besoin de soins dans le cadre de l'hôpital, que ce soit fait dans des meilleures conditions. Donc il y a du matériel, des tablettes avec des jeux pour les enfants, des petits films, des voitures, différents cadeaux, etc. Et c'est vraiment une prise en charge qui démarre là-dedans et qui est vraiment une belle réussite. Voilà, donc pour moi, il y a deux mots-clés. En conclusion, dans l'hypnose, en tout cas dans ce que nous on utilise, c'est l'autonomisation du patient et puis surtout une rencontre entre deux personnes, entre êtres humains. Et puis j'aime bien dire que finalement on soigne des fois mieux avec des mots qu'avec des bistouris ou des seringues. Je vous remercie. Donc je passe la parole à Hélène.
On va essayer de se réveiller un peu. Je sens qu'il y en a qui sont hypnotisés dans la salle et les yeux se ferment. Alors attends, il faut faire pause.
Et si l'hypnose s'est autant développée. Voilà.
Le petit film qui va vous être présenté, c'est donc un film qui a été réalisé l'année dernière au sein du GHBS qui nous a été prêté. Tous les acteurs intervenants qui ont été filmés, ont autorisé... subrepticement que ça soit rediffusé sur Cap à les communautés, mais ils sont pas tous au courant. Donc on va dire qu'ils veulent bien. C'est pour montrer un petit peu les différents services de l'hôpital et un petit peu comment on fait l'hypnose au GHBS maintenant. Voilà. Sachant que il y a une intervenante, il y a une consultation hypnose aussi à l'hôpital de Quimperlé avec le docteur Stéphane qui se situe le vendredi et elle a malheureusement pas pu être là parce qu'elle habite à Brest et que du coup elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a une consultation hypnose pour surtout les douleurs chroniques. Donc voilà, elle m'a demandé de préciser. C'est vraiment pour la prise en charge des douleurs chroniques. Donc c'est le vendredi matin à Quimperlé. Voilà, donc on va pouvoir vous présenter le petit film. Et puis après, vous réfléchirez à toutes vos questions à la fin des intervenants. Alors... On peut juste faire tuc. Non. Attends. Oui, c'était avant.
Et si l'hypnose s'est autant développée sur le CHBS depuis quelques années, il faut en fait partir de l'historique où le premier médecin anesthésiste à s'être formé sur l'hypnose a été le docteur Hano. Elle était médecin anesthésiste et également médecin de l'unité mobile douleur.
Bonjour, je suis docteur Hélène aux enfants. Je suis avec Isabelle Caro-Brezel qui est infirmière au sein du service et nous sommes formés à l'hypnose depuis maintenant plusieurs années. Nous faisons partie d'une équipe de plusieurs personnes et on est aujourd'hui là pour vous présenter ce qui se fait aux urgences pour gérer en fait plutôt les douleurs aiguës, mais aussi d'autres situations dans lesquelles on peut être amené à pratiquer l'hypnose. Dans le cadre des urgences pédiatriques, pour la prise en charge de l'enfant, on va vous montrer un petit peu nos matériels pour aider l'enfant et surtout qu'il reparte avec un bon souvenir voilà, des urgences.
Dans le cadre de nos prises en charge, nous signalons nos soins par cette petite pancarte qui nous permet de prévenir nos collègues que nous avons une prise en charge hypnose. Dans le cadre de la prise en charge des enfants, nous avons mis aussi également en place deux mallettes à trésor qu'on propose dans le cadre de soins douloureux. L'enfant va choisir une des deux mallettes de manière indifférenciée et la découvrir au moment du soin douloureux. Donc la mallette bleue, par exemple, se présente comme ceci, avec des trésors. Tout est axé sur de l'hypnose conversationnelle dans le but de divertir l'enfant et de focaliser et de permettre un soin dans de bonnes conditions et de manière bienveillante. Pour les enfants un peu plus grands, nous avons mis en place du chercher Charlie qui permettra également aussi de focaliser pendant le soin. Donc des supports très adaptés pour rester de manière ludique dans un soin douloureux. Nous avons également des crayons. L'enfant va choisir sa couleur, son odeur, prendre possession du masque de Kalinox et pouvoir diriger en quelque sorte son soin et nous permettre de développer en fait l'hypnose conversationnelle. Dans l'accompagnement de la prise en charge des enfants, on leur propose également des gommettes du courage qui permettent de diffuser le courage pendant le soin et de leur donner vraiment envie de nous aider et d'être de manière participative dans le soin douloureux. Donc gommettes avec laquelle ils repartent, également avec un diplôme du courage qu'on leur remettra une fois le soin terminé. Dans la salle d'examen enfant, nous avons également une poupée un peu magique dans laquelle se trouvent des trésors et nous invitons les enfants à venir chercher, toucher pour développer des différents sens et notamment celui-ci, celui du toucher. Donc l'enfant va se caler devant cette poupée et chercher un petit trésor qu'il emportera ensuite avec lui chez lui pour le remercier de son courage. Aux urgences, l'hypnose est avant tout une prise en charge bienveillante, une prise en charge surtout holistique dans le respect des uns des autres, calée sur l'organisation des différentes équipes.
Pour conclure, après ce brillant exposé de ce qu'on peut faire aux urgences, il ne faut surtout pas hésiter quand vous arrivez chez nous pour des soins divers. Ça peut être pour un soin de peu de gravité, ça peut être aussi pour des soins sur des pathologies plus importantes, de solliciter nos équipes. Nous sommes maintenant plusieurs à être formés à l'hypnose. Donc, n'hésitez pas, l'hypnose aux urgences, c'est nous.
Depuis 2016, on est 7 manipulateurs à s'être formés à des techniques d'hypnose. Donc, on utilise des techniques d'hypnose formelles et non formelles. Donc, je pense que l'hypnose non formelle, ça correspondrait à 80% à peu près de notre activité dans le service d'imagerie. Donc, on utilise des techniques comme la régression dans le temps, la focalisation sur une zone de confort, des techniques de conversation, de l'hypnose conversationnelle. Et en fait, les patients, on met en confiance les patients, on les accompagne pendant tous leurs examens, pendant leur suivi. On leur donne du confort, du bien-être, que de la communication positive. Donc pour les 20% après d'hypnose qu'on pratique, en fait, d'hypnose formelle, on utilise toujours à peu près la même façon de faire. Je vais essayer Clément vous expliquer.
Donc pour les 20% de personnes qui vont avoir recours du coup à une hypnose formelle, donc une transhypnotique, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit une demande dans le service qui va être prise en charge et on va assigner du coup la personne à un des manips formés en hypnose. Ce manip-là ensuite va être amené à l'appeler à chaque fois pour justement transmettre au patient que la demande a bien été prise en compte, pour lui réexpliquer aussi qu'est-ce qu'est l'hypnose, contrairement à ce qu'ils peuvent croire parfois avec l'hypnose qu'on voit à la télé en l'occurrence, et du coup recadrer la situation. Et ce manip-là va aussi souvent en fait détendre la personne, lui donner aussi une autre explication du déroulement de l'examen, de ce qu'elle peut penser. Donc du coup, parfois même l'hypnose n'est plus forcément nécessaire en fonction des explications, ça dépend du patient. Et une fois que toutes les explications sont faites par rapport à cette demande d'hypnose, on peut avoir recours aussi à une consultation pré-hypnose, donc pré-examen, qui sera réalisée aussi par le même manipulateur qui aura fait l'appel et qui fera l'hypnose en elle-même. cette consultation-là sert notamment pour les personnes qui ont vraiment plus de doutes, d'angoisse ou qui redoutent un peu plus l'examen. On le sent souvent au niveau de l'appel. Et du coup, c'est ce qui permet aussi de, voilà, de encore une fois, recadrer la personne pour qu'elle vraiment ressente bien qu'on est là pour l'aider, qu'on va lui faire utiliser le maximum de ressources en elle pour réussir cet examen et pour venir justement voilà, à l'objectif final, qui est la bonne réalisation de l'examen.
Donc, les avantages de l'hypnose en service d'imagerie, c'est la réalisation de tous les examens. Rares sont ceux qu'on ne peut pas faire, car étant donné que les patients ils sont en confiance, on les a écoutés et leur participation fait qu'on réalise l'examen dans le sens où c'est positif pour tout le monde.
Infirmière sur l'équipe mobile douleur, j'utilise l'hypnose conversationnelle, surtout dans le contexte d'évaluation de la douleur, lorsque mes collègues appellent au niveau des unités pour des toilettes compliquées ou des pansements complexes.
Je me suis formée à l'hypnose en 2015, donc j'ai fait une formation d'hypnose et de thérapie brève, créative, une formation de 2 ans. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre en charge des patients au sein du service de rééducation, donc des patients que m'adressent les médecins du service de médecine physique et réadaptation de l'hôpital.
Dans le cadre des douleurs chroniques, pour les patients hospitalisés, nous faisons plus appel à 2 collègues sur l'établissement, Madame Piel, psychomotricienne, qui travaille plus sur l'hypnose douleur chronique, et Madame Agnès Travers, qui actuellement a un petit temps dédié sur l'unité mobile douleur, et qui travaille également dans ce contexte.
Moi, je suis suivie en rhumatologie depuis plusieurs années pour une maladie chronique. Après l'essai du TENS, m'a proposé aussi de faire une hypnose pour voir ce que ça pouvait éventuellement ouvrir. Donc moi, j'ai accepté vivement, puisque ces douleurs, j'arrive pas à les calmer, et puis elles me font souffrir et puis me fatigue beaucoup dans mon quotidien.
Pendant ces prises en charge, les patients se saisissent d'outils que je mets à leur disposition. Je leur donne des clés et grâce à ces clés, ça leur permet de poursuivre ce travail au-delà en fait, de nos séances. Ça peut être avec des exercices d'auto-hypnose.
Et à chaque séance, on me donne des nouvelles clés pour faire de l'auto-hypnose et puis dans le but de le faire moi-même et puis de me soulager aussi à tout moment et comme je peux. Donc c'est un super outil que l'hypnose, puisque chez moi ça marche et puis si ça pouvait soulager d'autres personnes.
On a démarré en proposant l'hypnose essentiellement au moment du bloc, au moment des recueils ovocytaires, au moment de ces gestes-là. Et puis petit à petit, on s'est dit qu'on pouvait élargir cette proposition au moment des transferts d'embryons et aussi pour préparer toutes ces étapes. Donc maintenant, on propose des consultations d'hypnose en dehors de tout geste technique pour préparer, améliorer le ressenti. Et donc, pourquoi pas aussi apporter peut-être un petit peu plus de chance pour toutes les étapes, ou en tout cas un meilleur vécu. Cette pratique d'hypnose au cœur de l'AMP est vraiment bien répandue donc, au niveau du bloc. Tous les matins, on a une infirmière anesthésiste qui peut proposer de l'hypnose. Et aujourd'hui, en AMP, pour tous les gestes aussi, puisqu'on a nos 2 sages-femmes formées, ainsi que moi-même. Et ce qui amène plusieurs propositions et du coup, les patients peuvent s'en saisir.
Donc, l'hypnose me permet de mieux gérer mon stress. Quand je suis stressée, je fais une petite séance d'hypnose que j'ai appris avec Madame Julot pour me canaliser et cela me permet de me détendre pour que j'aille mieux. J'ai fait aussi de l'hypnose pour le transfert d'embryon. Cela me permet de ne pas avoir de ressentir la douleur parce que je me focalise sur l'appareil de l'échographie. Donc, j'imagine, on part avec Madame Julou sur un sujet, et donc notamment la dernière fois, c'était sur un paysage de champs de fleurs. Donc, cela me permet de regarder sur l'écran, de ne plus penser à la douleur et de rester canalisée sur l'écran et que tout se passe bien sans que j'ai de douleur et sans que je sois stressée.
L'hypnose existe aussi dans un autre cadre que l'AMP, en gynéco-obstétrique, puisque quelques sages-femmes qui sont en salle d'accueil, aux urgences de gynéco-obstétrique, sont formées et d'autres vont l'être aussi. Donc, c'est intéressant en salle, pendant le travail, à l'accueil urgence aussi, d'avoir cet accompagnement possible et de pouvoir s'en saisir.
Nous travaillons, Nathalie et moi, dans une équipe mobile de soins palliatifs au GHBS à Lorient. Nous avons dû adapter notre pratique de l'hypnose dans ce contexte très particulier des soins palliatifs et de la fin de vie. Nous sommes effectivement amenés à rencontrer des patients fragilisés, vulnérables par la maladie, les annonces et la mort annoncée. Les patients rencontrés également peuvent souffrir de symptômes pénibles, souvent insupportables, et qui, de manière un peu plus générale, souffrent de manière globale au niveau psychologique, physique, spirituel, social et familial.
Alors notre intention avec l'hypnose, c'est d'aller chercher la personne là où elle en est au moment de la rencontre, avec ses symptômes, douleur, sensation d'étouffement parfois, ses émotions, la peur, la tristesse, le sentiment de vide, plus rarement la colère, et puis aussi ses doutes et ses interrogations. L'hypnose va nous permettre de soutenir une relation suffisamment sécure pour que puissent se nommer des demandes singulières, par exemple demande d'arrêt de traitement, ou désir de mort, ou au contraire désir de vivre.
L'hypnose que nous pratiquons, c'est vraiment une approche relationnelle basée essentiellement sur une communication non verbale. L'objectif fixé avec le patient est souvent assez minimaliste, qui respecte les ressources du patient et qui va lui permettre de se décaler par rapport à son vécu insupportable ou inconfortable de la situation qu'il peut vivre à ce moment-là. C'est une hypnose qui est très créative, qui demande beaucoup d'adaptation de la part de l'intervenant que nous sommes. Dans la pratique, Nathalie et moi, on se rend bien compte que finalement, l'approche hypnotique apporte elle-même une sécurité qui est elle-même thérapeutique.
Alors, comme vient de le dire Céline, l'hypnose que nous pratiquons va s'ajuster aux capacités résiduelles du patient en soins palliatifs ou en fin de vie. À ce titre, nous avons pour habitude de pratiquer des inductions courtes, qui sont des inductions corporelles, et le plus souvent de l'hypnose fractionnée. Lorsque la disponibilité du patient le permet, eh bien, on peut aller vers de l'hypnose formelle, et lorsque son autonomie le lui permet aussi, on va pouvoir s'orienter vers un apprentissage de l'auto-hypnose.
Voilà, le petit film est terminé. Vous remarquerez notre don pour le cinéma. Donc, je remercie encore quand même tous les gens qui ont bien voulu être filmés, parce que c'est quand même pas facile. Voilà, ils sont pas présents tous ce soir, mais vous remarquerez qu'ils étaient tous bienveillants surtout. Donc, je pense que c'est déjà ça qu'on peut dire voilà, à la majorité des soignants. Merci.
Donc moi, je vais vous présenter la consultation. Je crois que c'est à moitié. La consultation hypnose préchirurgicale, qui est donc mise en place depuis 3 ans maintenant à l'hôpital, 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop, au GHBS, donc qui est faite par des infirmières anesthésistes. Alors, hop, comment je fais? Voilà. Donc cette merci. Cette consultation, elle s'adresse à qui? eh bien, aux patients qui souhaitent une intervention chirurgicale avec l'hypnose, mais aussi aux patients qui souhaitent se préparer à leur chirurgie, à leur intervention chirurgicale qui pourra se faire sous anesthésie générale. Il y a les deux cas. Donc, comment on est organisé ? Ben, déjà, elle est faite par des infirmières anesthésistes qui ont suivi la formation hypnose, douleur aiguë et anesthésie. On a 4 après-midi par semaine qui sont consacrés à ça. On a, le lundi, on n'a qu'un téléphone. Alors, vous allez me dire comment on peut faire une consultation hypnose avec téléphone, mais je vais vous expliquer. Et puis, on a 3 après-midi où on a un bureau et on reçoit les gens. Là, on peut vraiment faire de l'hypnose formelle. Donc, les interventions avec hypnose, bon, ça s'est développé de plus en plus sur le GHBS. Donc, ça a commencé en gynéco avec les ponctions, les recueils ovocytaires, comme parlait Véronique Joulot dans le film. Et puis maintenant, on fait à la demande. Quelquefois, il y a des demandes de colo, d'ablation de tumeurs. Enfin, bon, il y a plein de choses qui peuvent se faire avec hypnose. Donc, dans ces cas-là, on donne plus une information sur l'hypnose. C'est pour ça que c'est possible par téléphone. On ne va pas faire une transe hypnotique par téléphone. Hein. Ce n'est pas une consultation, enfin, c'est pas de l'hypnose au téléphone. Quand on a les gens au téléphone, c'est surtout que ben, nous, on sait qu'ils ont fait via le chirurgien ou la consultation anesthésique, ils ont une demande d'hypnose pour leur intervention. Et donc, nous, on leur téléphone et pour justement savoir quelle est leur motivation. Pour qu'on leur explique ce que c'est que l'hypnose réellement, qu'on réponde à toutes leurs questions et qu'on leur explique comment se passe une intervention chirurgicale avec hypnose. Donc ça, forcément, ça peut se faire par téléphone, quoi. Et puis, on a aussi maintenant le volet qui était intéressant à développer, c'était se préparer à son intervention chirurgicale grâce à l'outil hypnose. Donc, au départ, il a fallu que nous sommes une douzaine d'infirmières anesthésistes à peu près à tourner sur ce poste-là. Donc, on a défini un protocole commun. On fait tous la même chose à chaque séance. Donc, on propose 2 séances, voire 3 si on a le temps et si le patient en a besoin. Ça s'adresse aux patients qui ont vraiment beaucoup de stress. Ça peut être aussi ceux qui veulent se préparer par rapport à une chirurgie qui va être mutilante. Dans les contextes de cancer, parce que ce sont des outils qui vont pouvoir être utilisés après aussi par le patient, parce qu'en fait l'objectif c'est de l'autonomiser le plus possible, quoi. Donc l'objectif c'est ça, c'est de réduire l'anxiété préopératoire, parce qu'il y a des études qui ont été faites en Bayon en 2007 et Chef en 91 qui montraient que la prévalence de l'anxiété chez l'adulte c'est 60 à 80%. Et puis d'autres études, des Chefferu en 2000 et Fémonville en 97, qui ont démontré, donc études à l'appui, que la diminution de l'anxiété était possible justement avec l'outil hypnose. Il y a plein d'études qui prouvent ça, quoi. Autre objectif, c'est aussi d'améliorer le post-opératoire. Là, c'est pareil, il y a une méta-analyse qui a été faite en 2013 par Tefico qui portait sur 2597 patients qui avaient bénéficié d'hypnose pré-opératoire. Et ça a montré, cette étude, qu'il y avait une amélioration des paramètres post-opératoires tels que la douleur, l'anxiété, la consommation de médicaments et le confort en général. Autre objectif, c'est aussi d'anticiper la modification du schéma corporel. Parce que quand on va avoir une chirurgie mutilante, que ce soit visible ou pas, hein, avec une thyroïde en moins, un sein en moins, des ovaires en moins, ça peut se préparer parce que mieux on est en adéquation avec notre schéma corporel tel qu'il est au moment après la chirurgie, et mieux on sera bien dans sa peau. Et ça peut se préparer avec la sophrologie, mais aussi l'hypnose, c'est-à-dire qu'on va mettre en adéquation le schéma mental et le schéma physique tel qu'il est. Et mieux on se sent bien dans sa peau et mieux on peut récupérer et tout. Plein de choses, quoi. Et puis l'autre objectif aussi, c'est d'anticiper la douleur. Et là, on pense que ça peut avoir un rôle dans la prévention de la douleur chronique. Alors c'est Erickson qui disait que la douleur, c'est un tiers de la douleur passée, un tiers de la douleur présente et un tiers d'anticipation de la douleur. Et donc c'est en travaillant sur ce volet-là qu'on peut avoir une modification modification de la douleur, quoi. Et des études ont montré que l'anticipation d'un soulagement de la douleur induit par, va induire un soulagement qui est réellement favorisé et qui en plus est plus intense. Le fait d'avoir travaillé sur l'anticipation du soulagement provoque un soulagement. Ça permet aussi de travailler sur les attentes positives vis-à-vis d'un traitement antalgique. Ça c'est Beneditti, un médecin qui a montré ça avec des études, parce que les attentes entraînent aussi rapidement un effet placebo, et on sait que l'effet placebo peut avoir des effets positifs, quoi. Voilà donc pour les objectifs de ces consultations. Alors, comment elle se passe? La première consultation, on va déjà définir un objectif, parce qu'une séance d'hypnose sans objectif, c'est une séance qui ne sert à rien. Donc, vraiment, on travaille sur l'objectif du patient. Qu'est-ce qu'il veut obtenir? Très souvent, les gens, ils arrivent chez nous en disant « bah, je veux être moins stressé ». Ouais. Donc, on évalue déjà ce stress. Donc, moi, je leur demande toujours, si la chirurgie elle a lieu demain, votre stress, entre 0 et 10, vous le mettez à combien? Très souvent, ils sont à 7, 8 sur 10, quoi. Et donc, moi, je leur demande, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir avec l'hypnose? Qu'est-ce que vous souhaitez gagner avec ces séances d'hypnose? Et là, le chemin, il se fait vers un objectif positif. Eh bien, j'aimerais avoir, me sentir, par exemple, plus zen, ou être plus détendu, être plus calme. Et là, on a des mots positifs. Et donc, je leur demande, à combien de 0 à 10 vous aimeriez être en zénitude au moment où vous vous allongez sur la table d'opération, quoi. Et les gens ne me disent jamais 10. Il y en a une fois qui a dit 10, qui s'est mariée, qui m'a dit, si déjà je suis à 5, 6, c'est déjà bien. Et beaucoup de gens mettre un objectif réaliste, réalisable, cet objectif d'être zen, c'est le mot que le patient emploie, que l'on met, quoi. Donc voilà, on a défini l'objectif, un objectif positif, réaliste, réalisable, parce que ne vouloir gravir l'Everest du jour au lendemain, c'est pas possible, donc on avance pas à pas. Et avec l'hypnose, c'est pareil, on se met un petit objectif. Une fois qu'on l'a atteint, inconsciemment, à l'intérieur, on se rend compte que c'est possible et que ça marche. Et donc, on peut continuer à avancer. Voilà. Donc, la première consultation, c'est ça. On définit l'objectif et après, on va créer un lieu de sécurité dont Eric parlait tout à l'heure. Et là, on va faire une transe formelle, c'est-à-dire que la personne va vivre une transe hypnotique, comme vous avez fait l'expérience tout à l'heure. Et on va l'inviter, je vais vous expliquer après ce que c'est le lieu de sécurité, à créer cet outil-là qu'il va avoir après avec lui pour toujours, et qui va travailler chez lui à la maison après. Donc, à la fin de la séance, on remet aussi un document où on explique à la personne comment faire de l'auto-hypnose. On relit le document, on explique bien tout ça. Donc, le lieu de sécurité, c'est un endroit où le patient est tout seul. On insiste bien sur cette notion d'être tout seul parce qu'une fois qu'il est créé ce lieu, je vous ai dit, on l'a avec soi tout le temps. On peut s'en servir pour n'importe quel objectif par la suite. Ça peut être pour une intervention chirurgicale, mais ça peut être pour un exposé, pour une prise de sang, c'est pas forcément pour un examen de piano ou n'importe quoi. Enfin, ça peut servir pour plein de choses. Donc le patient, il faut qu'il soit tout seul parce que dans 10 ans, dans 15 ans, si on a mis toute la famille dans le lieu de sécurité et qu'il y a au bout de 10 ans, 15 ans, il y a eu des modifications, le lieu, il n'est peut-être plus tellement de sécurité. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est un endroit tranquille où le patient, c'est vraiment le mot maître, c'est sécurité. Le patient peut être confortable. Très souvent, les gens, ils choisissent le canapé, le fauteuil, le lit. Mais pour certains, ça peut être assis sur tel rocher face à la mer. C'est pas ce qu'il y a de plus confort, mais c'est sécurité. Donc, ça demande un investissement du patient, bien sûr. Là, c'est comme on disait tout à l'heure à la présentation, le patient doit être motivé et il s'investit dans ce processus. Il est acteur du soin, acteur du processus. Et c'est ça qui fait aussi la réussite de cet outil. Et donc, on lui remet le document et on lui demande qu'entre les deux séances, s'il y en a une deuxième, qu'il travaille cet outil-là 10 minutes par jour. C'est pas beaucoup, 10 minutes par jour, mais c'est pas toujours bien fait, pas toujours fait, mais c'est voilà. On demande tous les jours, comme ça au moins, en une semaine, on est sûr qu'il y a 3 ou 4 fois où c'est fait, quoi. Et le patient va s'entraîner à retourner dans ce lieu de sécurité une fois par jour. La deuxième séance, bien, il revient nous voir. On a un retour d'expérience. Est-ce que le lieu de sécurité, ça a marché? Est-ce qu'il est retourné? Combien de fois il est allé? Est-ce que ça convenait bien, ce lieu? Et puis, après, on va faire, pour la deuxième séance, ce qu'on appelle une projection dans le futur. C'est-à-dire qu'on va inviter le patient à aller, par petits bonds successifs, jusque au-delà de la chirurgie. Alors là, je vous montre des exemples. C'est-à-dire que le premier temps, il est donc en transe formelle, en transe hypnotique, dans le lieu de consultation. Et mentalement, il va aller faire des petits bonds dans le temps et dans l'espace. On va recueillir des évocations agréables qu'il va vivre du quotidien. On imagine aujourd'hui, on est mardi, la chirurgie a lieu, par exemple, jeudi de la semaine prochaine. Ben, on va demander au patient... ce soir, qu'est-ce que vous allez faire que vous pensez qui va être agréable? Donc, ça peut être les choses, mais vraiment banales du quotidien. Hein. Ce soir, toute la famille va être là. Le grand, il rentre de Nantes. On va manger ensemble un repas autour de la table. Ben, voilà, ça c'est quelque chose de quotidien, mais de positif, quoi, d'agréable. Donc il va passer par cet événement-là, par la transe. Et puis après, on va recueillir un événement un peu plus loin. Par exemple, jeudi ou vendredi, qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire qui est agréable pour vous? Ah, bah, c'est ma séance hebdomadaire de natation. Donc voilà, on va recueillir ce thème-là. Et puis, ce week-end, est-ce que vous allez faire quelque chose? Je vais marcher, je vais faire une randonnée, il va faire beau avec ma cousine. Bon, bah, voilà. Après vient le temps de la chirurgie. Alors, on va passer assez rapidement dessus en s'orientant vers le côté positif. Et on va aller jusque au-delà de la chirurgie quand il sera de retour à la maison, par exemple installé dans son fauteuil devant la cheminée. Et on oriente l'esprit en fait que sur le volet positif. C'est-à-dire qu'on n'est pas Madame Irma, on n'a pas une boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en mettant quand même, en focalisant sur les choses agréables et positives d'un futur qui va être à court terme, quoi. Et ça illustre ça, le verset du Dhammapada, c'est ce qui est enseigné dans l'enseignement bouddhiste, mais ça illustre bien ça. Ce que nous sommes aujourd'hui vient de nos pensées d'hier, et nos pensées présentes bâtissent notre vie de demain. Notre vie est la création de notre esprit. Ça veut dire qu'en fait, plus on va focaliser sur des choses positives, constructives et agréables, plus on va sur ce chemin-là de positif et d'agréable, quoi. Et ben, c'est ce qu'on fait avec cette futurisation en mettant en valeur tout ce qui peut être agréable et positif, quoi. Donc l'intérêt de ça, c'est que ça va permettre une mise en mouvement du patient, et le patient il va s'orienter vers ses ressources plutôt que de focaliser sur le problème, sur ce qui est difficile. Eh bien, on va le faire focaliser sur ses ressources. Il va se projeter vers la solution et non le problème. Et puis ça permet également une autre lecture du futur. Ça, c'est Damadio, un autre médecin italien, qui explique que la présélection de scénarios par le cortex préfrontal entraînerait, via l'amygdale, alors c'est un circuit neurologique, des réactions émotionnelles préfigurées qui permettraient au sujet de choisir parmi plusieurs hypothèses. Et l'hypersuggestibilité du patient en état de transe permet de lui suggérer un scénario plus optimiste qu'un autre, et donc de fabriquer de la guérison. C'est comme ça qu'il explique cette lecture du futur différente, quoi. Et tout à l'heure, Eric vous parlait de la suggestion. Eh bien, quand on fait des trans hypnotiques, on fait toujours des suggestions, bien sûr, positives, pas dans l'intérêt du patient, hein. Et donc là, parler de cicatrisation, c'est déjà de la cicatrisation. Parler de récupération, d'autonomisation, c'est déjà des petites graines qu'on sème qui vont vers ce chemin de cicatrisation et de guérison. La suggestion, vous l'avez aussi vécu un peu tout à l'heure, pour ceux qui ont fait le choix de goûter à quelque chose, vous avez salivé. Ben voilà ce que c'est une suggestion, ça provoque des choses aussi dans le corps. Là, on sème des graines et probablement il y a des choses qui se mettent en place différentes dans le futur du patient, quoi. Et puis, alors, s'il y a besoin d'une troisième séance, on l'a fait. C'est rarement fait parce que souvent, les gens viennent un peu tardivement nous voir et la chirurgie arrive vite. Mais s'il y avait vraiment besoin ou la possibilité, on peut faire, créer, par exemple, un gant de protection dont Eric parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec une transe hypnotique, on invite, c'est une technique qu'on apprend, on est capable de mentalement de se fabriquer de l'analgésie sur la peau. Et pour ceux qui ont par exemple la phobie des aiguilles, eh bien, on peut les inviter à construire ce gant. Ils sont, après, c'est à eux de s'entraîner, l'installer quand il y a besoin. Et puis, ben, quand on pince la peau, quand on met la perfusion, la peau est endormie, quoi. Donc ça peut être une autre possibilité d'outils qu'on peut apprendre aux patients après, quoi. Et puis, ben, le jour de l'intervention chirurgicale, soit l'infirmière anesthésiste est formée, et à ce moment-là, on a un dossier où on met dedans, on a recueilli les informations utiles à communiquer. Et donc, l'IAD va inviter le patient à s'installer dans son lieu de sécurité au moment de s'endormir. Puis là, pareil, on fait des suggestions, hein, on saupoudre de suggestions. Et puis, ben, du coup, le patient va pouvoir s'endormir serein, et comme on s'endort, on se réveille, il va se réveiller serein dans son lit, au chaud, en salle de réveil. Si jamais il n'y a pas d'IAD formé, parce qu'on n'est pas 100% d'IAD formé, on est petit tiers de l'équipe à peu près, eh bien, c'est pas grave, le patient, il s'est entraîné, il est un peu autonome, donc on le prévient, on lui dit, ben, vous dites juste à l'équipe que vous avez eu ces séances, que vous vous êtes entraîné, et vous allez vous installer dans votre lieu de sécurité au moment où on vous endort, quoi. Il est capable de le faire lui-même, quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et donc, je passe la parole à le volet de sage-femme.
Donc, je suis sage-femme à Quimper. Depuis 36 ans maintenant, j'exerce mon métier, et depuis 20 ans au libéral. Et le métier a beaucoup évolué donc depuis que j'étais jeune sage-femme. Par contre, au niveau de ces évolutions, je me suis rendu compte que nous avions besoin d'outils pour accompagner au mieux les choix des patientes. En 1984, je m'étais intéressée à la sophrologie. Et ça m'a permis de voir un peu le potentiel de l'esprit humain. En 2015, j'ai fait une première formation en hypnose à Paris, à l'Institut français d'hypnose. Hein, et j'exerce exclusivement, par contre, dans le cadre de ma compétence de sage-femme. Hein, je ne suis pas généraliste, je suis ciblée sur l'obstétrique. En 2017, j'ai continué ma formation à Rennes, hein, et depuis 4 ans maintenant, je propose donc des séances d'hypnose aux personnes qui me le demandent dans le cadre de ma compétence de sage-femme. Alors, la maternité est un moment de grand bouleversement au niveau physique et psychologique. Il y a la transformation du corps. Il y a également des transformations psychiques. Au moment où une femme attend un enfant et quand elle accouche, tout le monde saute une génération, c'est-à-dire que la mère devient la grand-mère, et c'est vrai que c'est pas évident à vivre. Et il y a des résurgences de peurs qui viennent de l'enfance également, de la part de la jeune femme. Le corps qui évolue, qui se déforme. Il y a également la peur de ne pas savoir faire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être une bonne mère. Il y a beaucoup d'inquiétudes. D'où l'importance d'écouter un petit peu les inquiétudes des personnes que je reçois. Je reçois généralement donc la future mère lors d'un examen au quatrième mois de grossesse, et je commence toujours par une anamnèse, c'est-à-dire que j'écoute son parcours de vie, ce qu'elle a pu vivre de difficile, mais également des événements heureux. Cela me permettra après de créer le travail que je vais faire avec elle. J'écoute aussi ses attentes par rapport à la suite de cette grossesse et par rapport à son accouchement. On parle également du rôle du père, hein, qui est important auprès d'elle au moment de ce passage de jeune couple à la famille. Les limites sont les limites imposées par le choix de la personne, c'est-à-dire que je ne vais pas proposer de l'hypnose à tout le monde. C'est la personne qui me demande d'intervenir parce qu'elle souhaite le faire pour elle et pour son couple, pour sa famille. Je passe aussi beaucoup de temps à expliquer les outils, que ce n'est pas l'hypnose de Mesmer entre guillemets qu'on voit à la télé, et que donc je ne vais pas leur faire le chien, hein, donc voilà, c'est, je rassure, hein, dans la mesure de mes possibilités. Lors d'une séance d'hypnose médicale dans le cadre de la préparation à l'accouchement, j'accueille toujours ma patiente. Je lui demande comment s'est passée sa semaine, savoir ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre, les consultations, les échographies, ce qu'elle a pu vivre au niveau de sa famille. Je regarde si elle est en forme. Dans ce cas-là, je la complimente. Si je trouve qu'elle ne va pas bien, on en discute. C'est important qu'elle libère ses ressentis. Ensuite, je lui propose de s'installer confortablement, comme on l'a fait tout à l'heure avec Pascal lors de l'hypnose. Et donc, le but est de faire effectivement ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire de se positionner ici et maintenant, ce qui nous permet de partir ailleurs au niveau de l'esprit. Et donc, une fois cet ancrage réalisé, on passe au stade de la dissociation. Il faut se rappeler que l'hypnose est basée sur la dissociation corps-esprit. Et donc, généralement, pour cette dissociation, je fais ce qu'on appelle une induction. Chaque hypnothérapeute a la sienne. Pour ma part, je propose aux personnes de visualiser un confetti au milieu du front. Et donc, je leur demande de regarder la couleur, la forme, la taille de ce confetti. Et donc, très vite, on l'efface. Et je leur demande de se concentrer sur leur respiration, de prendre conscience du ventre qui gonfle, qui dégonfle, de l'air qui rentre par les narines et qui ressort, des éléments qu'on vit en permanence, mais dont on n'est pas en conscience d'eux. Une fois donc que la personne est bien dans sa peau et bien confortablement installée et concentrée sur elle-même, je lui fais prendre conscience que la concentration permet aussi un moment privilégié avec son bébé. Elle est uniquement concentrée sur elle et son enfant, et c'est donc un moment privilégié dont il faut qu'elle profite, entre guillemets. Ensuite, nous passons au travail hypnotique. Certains états ont déjà été évoqués par mes collègues. Lors de la première séance, généralement je commence par l'espace de sécurité. Donc je leur propose de rejoindre un espace où elles se sentent bien, et pour cela je vais utiliser ce qu'on appelle le VACO. Alors le VACO, c'est l'élément visuel, l'élément auditif, l'élément kinesthésique et l'élément olfactif. Le gustatif n'a pas trop de place au niveau de mon travail. Et donc, dans cet espace de sécurité, on va donc regarder l'espace, s'il est grand, s'il est petit. On va regarder les reliefs, les couleurs, les formes, les textures. Donc, ça le permet à la personne de se sentir bien dans cet espace. Et je la laisse profiter de cet endroit pour se régénérer et se détendre. Lors de la deuxième séance, je propose souvent de la sphère. Alors, en quoi consiste la sphère? Une fois que la personne est bien installée, sur le support, je lui demande de visualiser près d'elle une sphère telle qu'elle la souhaite, grande, petite, épaisse ou mince. Et dans cette sphère, elle va pouvoir évacuer tous les inconforts physiques puis psychiques qu'elle ne souhaite pas garder. Cela lui permet donc d'éliminer des énergies négatives et d'arriver à se détendre et à se relâcher. Et on a souvent de très bons résultats avec les personnes qui sentent même les épaules un peu plus légères en partant, parce qu'elles ont libéré certains éléments, donc elles se sentent mieux. La troisième séance, je leur propose le gant magique. Je leur propose d'aller à la pharmacie pour acheter une crème extraordinaire. Une crème qui détend, qui apaise, qui réchauffe. Et donc, cette crème, elles vont pouvoir l'étaler sur leurs mains. Donc, on passe en revue chaque doigt de la main qui est recouvert par cette crème, le dos de la main, la paume. Et donc, cette crème va servir à apaiser les douleurs et les tensions qu'elles peuvent avoir. Et pour que cette crème soit bien positionnée au niveau de la main, je leur demande d'enfiler un gant. Et je fais le geste en même temps qu'elle pour enfiler le gant sur la main et ensuite la passer sur le ventre. Généralement, donc, dans mon cas, ce sont souvent des tensions au niveau donc, du ventre, de l'utérus ou des ligaments. Et elles peuvent donc ainsi se faire du bien. Et c'est une technique qu'elles vont ramener chez elles ensuite et qui est donc, dont elles peuvent se servir à leur convenance, suivant ce qu'elles désirent. Le la quatrième séance, je leur parle du cadran magique. Alors, le cadran magique, c'est en fait la visualisation d'un cadran comme une horloge, un manomètre, un cadran de voiture, peu importe. Donc, elles définissent ça ensemble au départ de la séance. Et suivant que la contraction monte de plus en plus en intensité, mais ça peut être également le cas pour une autre douleur, elles positionnent le curseur qui monte en même temps que la douleur. Et je leur demande de fixer fermement le curseur à l'endroit où elle le souhaite. Et pendant toute la durée de la contraction ou donc de toute autre douleur, elle reste intensément fixée, figée sur l'intensité à ne pas dépasser. Pendant ce temps-là, le corps travaille, il sait ce qu'il a à faire, sans que la patiente n'ait rien à faire. Et effectivement, cela permet donc d'aborder les contractions l'une après l'autre et donc d'être plus serein pour la contraction suivante. La cinquième séance, je propose au futur papa de venir nous rejoindre pour lui transmettre les outils qu'on a travaillés ensemble et qu'il puisse accompagner la jeune maman, enfin future maman, lors de l'accouchement. Donc, je lui transmets tout ce qui est espace de sécurité. Je lui transmets la connaissance du gant magique et surtout du cadran. Et pour eux deux, donc pour leur progression au moment de l'accouchement, je leur propose un schéma qui est un petit peu inhabituel par rapport à l'accouchement. Je représente en fait une succession de dunes. Et donc je leur rappelle que chaque dune qui correspond à une contraction, il faut obligatoirement la franchir avant d'arriver à l'oasis qui ressemble. C'est une métaphore en fait. Et pour arriver à l'oasis, il faut franchir chaque dune l'une après l'autre. Si on ne franchit pas la dune, eh ben, on va rester très loin de l'oasis. Et donc c'est important d'aborder une contraction à la fois. Je leur rappelle également que le temps de la contraction, qui est d'une minute, est très bref par rapport au temps entre les contractions qui est de 4-5 minutes. Et donc au moment de la contraction, on va utiliser donc le cadran magique pour se focaliser sur la dissociation de l'esprit et du corps. Et quand la contraction repart, on sait qu'on dispose de 3-4 minutes de repos. Donc autant aller dans un endroit agréable et je leur propose de rejoindre à ce moment-là leur espace de sécurité. Le but au niveau donc de cette séance est de se dire qu'on va aller avec la contraction et non pas contre. C'est toujours plus intéressant de ne pas aller en confrontation avec quoi que ce soit. Ensuite, une fois que le travail dit de transhypnotique est effectué, je leur propose toujours une projection positive. C'est-à-dire que je leur demande de se projeter plus loin, plus ou moins loin, suivant leur état de grossesse. On peut se projeter à Noël, si elles aiment la fête de Noël. On peut se projeter lors d'une balade en forêt ou d'une balade en bord de mer, suivant ce qu'elles souhaitent. Et donc, je leur demande de se visualiser avec la fierté d'être cette jeune femme enceinte ou cette jeune maman, avec la confiance qu'on accorde au corps, qui fait quand même un sacré boulot pendant la grossesse, et avec le bonheur de cette petite famille qu'elles ont constituée et où chaque élément a sa place. Ensuite, tout doucement, je les fais revenir, comme on l'a fait tout à l'heure pour revenir de la cuisine. Je leur fais reprendre conscience donc des bruits environnants de la pièce, puis de chaque point de support de leur corps, donc sur la chaise ou le lit, suivant ce qu'elles ont choisi. Je vous ai parlé donc de mes interventions au niveau des cours de préparation à la naissance. Il peut m'arriver également d'intervenir en prénatal, suivant la demande des personnes que je reçois. Donc les deux indications principales sont les nausées, qui sont très fréquentes en début de grossesse, et la menace d'accouchement prématuré. Dans le cadre des nausées, j'ai déjà un entretien pour savoir pourquoi la jeune femme ressent ces nausées, Est-ce que c'est un contexte hormonal? Est-ce que c'est le rejet d'un élément quelconque de la grossesse qui se manifeste comme ça? À ce moment-là, on fait tout un travail sur le corps élastique, hein, sur l'estomac qui peut se dilater, sur un meilleur goût dans la bouche. Hein. Donc, des éléments qui vont améliorer le ressenti de ce début de grossesse. En ce qui concerne la menace d'accouchement prématuré, lorsque j'interviens, c'est souvent à leur domicile, hein, pour un monitoring. Hein, et donc, j'en profite pour échanger avec elles, donc dans le cadre d'une communication, et de voir s'il y a quelque chose de cette grossesse qui n'est pas acceptée. Est-ce qu'elles souhaitent, d'une façon ou d'une autre, limiter l'évolution de la grossesse par rapport au corps, hein, le corps qui peut se déformer plus on avance dans la grossesse. Il peut également y avoir une notion d'héritage. Par exemple, si leur maman a vécu une menace d'accouchement prématuré, leurs filles auront tendance à se dire ben, « tiens, c'est familial ». Donc, je fais tout un travail avec elles, hein, sur le fait de la différenciation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas leur mère. Et on travaille à ce moment-là sur l'ancrage, ici et maintenant, sur l'imaginer l'utérus comme un nid douillet où l'enfant va pouvoir se développer. Et ça peut m'arriver également de leur proposer de visualiser, de chosifier, qu'on appelle ça le col utérin, comme un bec d'entonnoir. Hein. Et ce bec d'entonnoir, on va y mettre un lien pour l'empêcher de s'ouvrir. Donc voilà les techniques que j'utilise en prénatal, en tout cas dans mon expérience personnelle. Les possibilités en postnatal viennent surtout d'une demande généralement de réhabilitation ou de réparation. Les femmes m'interpellent quand elles ont un mauvais vécu de la douleur d'un accouchement, un stress qui a été perçu de la part du conjoint, par exemple. Si elles ont eu l'impression de perdre le contrôle par rapport au personnel soignant qui les entoure. Hein. Et également, lorsque l'accouchement ne s'est pas très bien passé et que ça s'est, par exemple, terminé en césarienne. Hein, ce sont les cas les plus fréquents que j'ai eu à traiter. Dans ces cas-là, comment dirais-je, j'interviens pour les aider à se ressourcer, c'est-à-dire à aller chercher des énergies positives au niveau d'un arbre, par exemple, ou d'une... je leur fais visualiser autrement un puits avec de l'eau qui peut les régénérer en coulant sur elles. Je leur propose également de se positionner sur un chemin et de voir au loin un arbre magnifique, majestueux. Et en fait, quand elles approchent de cet arbre, elles se rendent compte, hein, qu'il y a des petites cicatrices, hein, qu'il y a des jeunes qui ont peut-être mis des petits cœurs ou des petites choses dessus. C'est-à-dire que cet arbre, il est très beau malgré ses cicatrices. Et ça permet, et comme ça, aux jeunes femmes, hein, de se réapproprier leur corps, hein, et de se sentir belles malgré leurs cicatrices. Et donc, voilà un petit peu le travail que j'effectue avec mes patientes. En conclusion, donc, l'hypnose est une technique qui est vraiment très intéressante pour les patientes qui le souhaitent. Et donc, c'est comme donner à quelqu'un un trousseau de clés. Et ce trousseau de clés, elles l'utilisent à leur convenance. Hein, mais celles qui l'utilisent arrivent à amener de la sérénité et du relâchement dans leur vie quotidienne. Hein. Donc, j'ai trouvé très sympa ce petit dessin là pour finir. Hein. Donc, les patientes qui m'interpellent par rapport à l'hypnose, ce n'est pas pour éviter la péridurale ou autre chose, c'est pour réaliser leur challenge personnel. Hein. Et donc, le but des techniques d'hypnose que je leur propose, hein, c'est qu'elles réalisent ce qu'elles ont envie de réaliser et, comme on disait tout à l'heure, qu'elles redeviennent actrices de leur accouchement, qu'elles soient actrices et non pas subir ce qui se présente. Voilà. Je vous remercie.
Alors, si vous avez des questions, vous êtes invité à...
Merci déjà pour cette soirée. Je voulais savoir, à un moment donné, vous parlez de transfractionné, il me semble. Et je voulais savoir ce que c'était exactement. C'était ça? À un moment donné, transfractionné, oui. J'ai pas trop compris.
Transfractionné, en fait, le patient passait par plusieurs... Quand j'expliquais les petits bonds dans le temps et dans l'espace, la transe, elle est, comme vous l'avez vécu, là, une transe, mais il va passer d'une étape à l'autre. Donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on fait le chemin à l'aller dans un sens et forcément, on fait le même dans le retour. Hein. On ne revient pas direct parce que en transhypnotique, tout ce qu'on ouvre, on le referme soigneusement derrière. Donc oui, c'était ça, des petits bonds dans le temps et dans l'espace, à l'aller et au retour. C'est ça. Ça va? C'est clair?
Oui, bonsoir. Je travaille un peu dans l'hypnose, là, depuis quelques années, en tant que psychanalyste, hein, et donc dans le cadre de thérapie. Et j'apprécie le travail avec les métaphores, puisque ça montre fort quelque chose qui est autre chose que ce qu'on voit, et c'est très puissant. Alors, je ne sais pas si je pose une question, là. À propos de métaphores, les autres intervenants travaillent beaucoup avec les métaphores?
Oui, ça peut arriver. Et puis, alors, le domaine assez classique, effectivement, c'est avec les enfants, comme je l'ai évoqué à la fin du topo, avec l'association des petits doudous. Dans le bloc opératoire, on travaille régulièrement avec des enfants et effectivement, les métaphores, c'est fort. voilà, après, chacun un petit peu, vous avez pu voir avec les différents topos, chacun un petit peu ses façons de faire et un petit peu son propre registre. Et je pense qu'on a un petit peu chacun les nôtres comme ça.
Parce que dans la formation, les formations d'hypnose qu'on propose un peu partout, et particulièrement à Rennes, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent la maison, on apprend à construire les métaphores. Dans l'entretien préalable, enfin, ce qu'on pourrait appeler l'interrogatoire, et la métaphore va se construire dans la relation, dans le dialogue qui s'établit, un peu à brûle-pourpoint. Je peux vous donner un exemple de métaphore qui s'est construite lors d'un entretien assez court et assez banal. Une personne qui vient me voir pour des troubles de sommeil assez importants et qui durent depuis des années. Rien n'y fait et elle vient me voir en désespoir de cause, comme un peu souvent. Donc elle va me parler, je vais l'interroger sur les problèmes de sommeil, mais je ne suis pas médecin. Donc c'est pour moi, c'est sur des signifiants qui nous amènent autre part. Et chemin faisant, elle finit par parler de le fait qu'elle ne peut pas dormir parce qu'elle a toujours dormi avec une lumière et que sa maman ne voulait pas qu'elle ait une lumière pour dormir parce que ce n'était pas bien. Donc la maman se mettait en colère. Et elle me disait, elle montait dans les tours. La maman montait dans les tours et elle était en furie. Alors dans ma tête, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que j'ai vu un phare, j'ai vu la mer déchaînée et j'ai vu cette pauvre personne qui était la gardienne de la chambre de lumière. Donc on a fait une séance d'hypnose avec ça, et ça a été absolument formidable pour moi, parce que je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à la chose, et surtout pour la personne qui est revenue avec un apaisement, puisque la métaphore, vous le savez bien, fait son travail au-dedans, à travers le corps et le reste. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long. Hein.
Non, mais au contraire, merci pour cette illustration. Alors effectivement, vous soulignez bien que la métaphore naît souvent d'abord de l'interrogatoire, l'anamnèse, et on a vu qu'on a tous nos outils. C'est l'intérêt du travail de Pascal et de l'équipe d'infirmiers anesthésistes à l'hôpital d'avoir mis en place cette consultation d'anesthésie, parce qu'il y a vraiment un premier lien qui se crée, des exemples qui sont faits, le recueil de différentes données qui permet ensuite d'avoir véritablement une hypnose formelle bien construite. Au tout départ, avant cette mise en place de consultation, effectivement, c'était un peu plus improvisé. C'était un recueil de données qui était fait simplement quelques instants avant une intervention chirurgicale. Donc, il n'y avait pas tout ce travail en amont. Et forcément, c'était un peu plus improvisé ou un peu plus standardisé, du coup. Et certainement, je suis tout à fait d'accord avec vous que ce travail, quand il se construit plus dans le temps, il est forcément plus efficace. Et puis en plus, après, on sent bien que dans ce que vous exposez, il y a aussi toute votre expérience qui fait que vous avez probablement une intuition, ça a travaillé, je ne sais plus comment vous l'avez exprimé exactement, mais ça a travaillé quelque chose dans votre tête. On a l'impression que c'est une improvisation, mais c'est derrière nous toute notre expérience qui s'exprime à ce travers ça. Donc c'est vraiment très intéressant.
aussi que je suis convaincu que je suis moi-même en transe. Parce que si je ne suis pas en transe, j'ai moins de capacité à recevoir, ce qui n'est pas de l'ordre du conscient et de la rationalité. Donc effectivement, pouvoir se laisser aller dans quelque chose qui est un flux, qui est un courant, une énergie en quelque sorte.
Oui, je suis tout à fait d'accord et c'est très intéressant, effectivement. En transe, ou moi je dirais en résonance, mais ça se rejoint effectivement pour être en résonance avec le patient, il faut un petit peu être en transe soi-même et rentrer dans sa transe.
Moi, j'avais une question pour le public. Qui a déjà fait une séance d'hypnose médicale? D'accord, pas mal. Qui aurait envie d'en faire une plus tard, maintenant, après le topo? Est-ce que ça augmente? Un petit peu. Bon. Donc, il y en a certains qui n'en ont pas fait et qui seraient tentés d'en faire. D'accord.
Bonsoir d'abord. J'ai la fibromyalgie et je souffre atrocement. Donc j'aimerais savoir justement. C'est pour ça que,
C'est pour ça que je vous ai dit à Quimperlé, voilà, il y a la consultation du docteur Stéphane.
Là, je suis obligée.
Vous êtes obligée de la voir.
De partir.
D'accord. Vous prenez rendez-vous. Il suffit d'appeler au standard de l'hôpital de Quimperlé et vous demander une consultation d'hypnose pour les douleurs chroniques avec le docteur Stéphane.
D'accord.
Donc, qui est super.
Désolée, mais je suis obligée de partir.
Quelle est la différence entre la sophrologie et l'hypnose?
Alors, la sophrologie a été créée par Caicedo, mais c'était déjà dans les années 70-75, je pense. L'hypnose médicale était encore à l'époque très peu connue. C'était plus vécu comme un fantasme, je pense, qu'autre chose. Et en ayant fait les deux, j'ai découvert en hypnose médicale plus de profondeur pour aller dans l'inconscient. C'est pour ça que ma première diapo représentait une serrure dans laquelle on peut rentrer plus profondément. On peut faire plein de choses avec la sophrologie, mais au niveau en particulier de la préparation à l'accouchement, l'outil du cadran, par exemple, je ne l'avais pas en sophro. Et c'est un moment important pour pouvoir franchir le moment des contractions et puis d'autres douleurs. Et ça, je ne l'ai pas trouvé en sophrologie.
Retrouver des fois en méditation aussi ce genre de choses. En méditation aussi, ça
oui,
peut être...
tout à fait. Tout ce qui concerne après la respiration, pour la concentration sur soi, apporte déjà beaucoup d'éléments positifs pour la personne.
Oui, alors pour compléter ce qui est dit, parce que Pascal et moi, on a aussi une formation en sophrologie, et dans ce qu'on peut avoir comme information relativement récente dans l'évolution de la sophrologie, c'est que les sophrologues ont tendance à un petit peu à être assez prudents dans leur pratique et dans leurs indications et essayent de, c'est ce que tu viens de dire, essayent de s'en tenir au corps et on a moins de travail sur les projections mentales en sophrologie. Certains y vont quand même un peu, mais la plupart des sophrologues sont très prudents et se limite en quelque sorte à un travail sur la respiration, sur la détente physique, corporelle, mais touche assez peu aux mentalisations. Après, certains le font un peu plus, mais je pense qu'ils sont assez prudents, surtout dans l'ambiance actuelle, assez globale, comment dire, de réévaluation des médecines complémentaires. Et pour avoir entendu un des responsables, c'est Richard Esposito, je crois, il n'y a pas très longtemps à la radio, c'est vraiment ce qu'il disait, c'est que le cadre est de mieux en mieux défini chez les sophrologues de rester dans le corporel.
Je trouve qu'il y a une différence notoire, c'est qu'il n'y a pas normalement en sophrologie, il n'y a pas de dissociation. Puisque au contraire, en sophrologie, on est vachement dans le corps, ici et maintenant, et il n'y a pas ce mot-là de dissociation qu'il y a en hypnose. Je trouve que c'est déjà une grosse différence.
Oui, c'est une différence effectivement fondamentale.
Et en fait, on utilise apparemment que 15% de son cerveau. Et avec l'hypnose, on peut aborder peut-être un petit peu plus des compétences qu'on a tous, mais dont on n'a pas les clés, les outils pour y arriver. Et je trouve ça passionnant de transmettre des clés, des outils pour que chacun puisse après aller à la découverte de son potentiel.
Alors justement, à propos de découvrir son potentiel, moi, en tant que soignante, j'aimerais bien mettre ça davantage en place dans ma pratique quotidienne. Mais j'ai quand même une appréhension par rapport à toute cette créativité dont je suis très admirative, mais j'ai des doutes sur le fait que je puisse arriver à avoir des métaphores, surtout nous, moi je travaille comme Hélène dans un service d'urgence, dans l'urgence, sans connaître le patient, sans connaître son passé, avoir les bonnes métaphores au bon moment, dans un contexte de stress où moi aussi je peux être éventuellement stressée par la situation médicale qui est en train de se passer. Voilà, j'espère que avec la pratique, ce sont des choses qui deviennent plus naturelles. Ou est-ce que vraiment dans votre formation, vous avez eu ces métaphores qui vous ont été proposées, j'allais dire préfabriquées, ou est-ce que c'est vous qui les avez trouvées ?
D'empathie, c'est un lien qu'on établit avec le patient. C'est pour ça qu'il y a un premier entretien avec l'anamnèse. Parce que c'est important, par exemple, de connaître s'il y a eu des traumatismes ou des deuils pour ne pas aller dans cette direction-là. Mais quand on se met en empathie, que la personne vous fait confiance, il y a vraiment un lien qui se crée. Et comme disait monsieur tout à l'heure, il suffit d'aller retirer quelques germes de certains mots et tac, on arrive à aborder, à trouver quelque chose. On se met vraiment en lien. C'est l'empathie, c'est tout simplement ça. Et je pense qu'en tant que personnel soignant, on y a accès.
L'empathie, oui, il n'y a pas de souci avec ça. On essaie de plus en plus, on se rend bien compte que les patients se détendent si on a la bonne approche. Je pense qu'en termes de communication positive, après avoir observé certaines de mes collègues qui ont été formées, j'ai beaucoup appris et je pense qu'on envoie des messages qui sont beaucoup plus positifs. Mais c'est après, voilà, cette créativité qui me donne
envie. Aux urgences, tu verras, c'est beaucoup du flou, beaucoup de pauses, beaucoup de silence, beaucoup d'écoute. Et comme nous, aux urgences, on ne connaît pas la crise. Avec nos passages itératifs de personnes, on n'a pas le temps de faire une transformelle. Donc, c'est beaucoup d'hypnose conversationnelle. Et le conversationnel, c'est simple. Et en fait, des fois, il faut juste soit laisser le patient parler, soit le laisser se taire et partir tout seul. Mais juste être là à côté et avec la respiration. Et la métaphore pour nous aux urgences, c'est beaucoup plus difficile dans le prise en charge comme ça d'une douleur aiguë. Voilà. Si t'as pas eu le temps de faire un recueil avant et de passer une demi-heure dans la chambre avec le patient, tu pourras pas faire des métaphores en rapport avec ce qu'il t'a expliqué, quoi. Donc c'est pas la même pratique, la douleur aiguë ou la prise en charge avec une consultation avant, etc. Si t'as eu le temps de faire un recueil de données, oui. Mais sinon, c'est plus compliqué quand même. Voilà. Mais par contre, ce qu'on apprend, c'est que au début, on veut beaucoup parler. Et en fait, après, il faut beaucoup se taire. Et ben, voilà.
S'il vous plaît, là, vous dites quelque chose de très intéressant à propos de flou. Moi, je crois que notre travail, notre activité avec l'hypnose, ça procède beaucoup du flou. Ça procède beaucoup d'être le fait d'être là sans trop savoir. Parce que c'est pas avec le savoir qu'on démarre quelque chose. C'est avec quelqu'un dans une relation qui est absolument improbable, quelque part. Hein. Et j'aime bien la notion de flou. Alors pour ceux qui sont intéressés par l'hypnose, de façon générale ou particulière, je vous recommande la lecture de François Roustan, et particulièrement son dernier livre, « Jamais contre d'abord ». C'est un gros bouquin, il y a 700 pages. Je crois que quand on a lu ça... On a fait le tour d'une question très très importante sur ce qui on est et comment on peut vivre. Voilà, merci.
Il y a aussi une notion qu'on n'a pas trop abordée, mais qui semble évidente, je pense. Quand on est en face de quelqu'un, il y a la notion de respect. Et donc, il y a le respect de l'autre. Et donc, comment dirais-je, il faut rester aussi suffisamment flou pour laisser à la personne le choix de son développement. Quelle que soit la période de la vie, et en particulier quand quelqu'un est malade, il y a la notion de respect.
Oui. S'il vous plaît, entre auto-hypnose et auto-suggestion, y a-t-il un lien, s'il vous plaît ? Je suis peut-être pas dans le sujet, là. Un lien ? Vous avez parlé d'auto-hypnose tout à l'heure.
Alors, en fait, l'auto-hypnose, c'est vous-même faites votre séance d'hypnose avec les mêmes techniques, c'est-à-dire que vous allez apprendre à vous faire votre hypnose à vous.
D'accord. Et l'auto-suggestion, y a-t-il un lien entre ces deux, auto-hypnose et auto-suggestion ?
Je pense que déjà, l'auto-hypnose, pour vraiment avoir une auto-hypnose efficace, il y a des bouquins qui sortent. Là, il faut mieux avoir vécu une séance d'hypnose avec quelqu'un pour apprendre à faire de l'auto-hypnose. Une fois qu'on a fait une ou deux séances, on est capable de se faire de l'auto-hypnose. Et pendant l'auto-hypnose, on se fait de l'auto-suggestion. Comme je vous disais, on met un objectif. Même quand on fait une séance d'auto-hypnose, il faut se mettre un objectif en début de séance. Sinon, ça ne sert à rien. Et là, vous vous faites de l'auto-suggestion. Enfin, je pense que c'est un peu similaire, mais enfin, vous suggérez des choses et vous allez pouvoir mettre en mouvement un changement, mais toujours avec cette notion d'objectif que vous avez fait au démarrage, quoi.
Moi, des fois, je me fais une séance d'auto-hypnose dans mon bureau toute seule quand il y a plein de monde aux urgences, que mes collègues ils m'énervent et qu'il y a du machin jusque-là. Je vais toute seule dans mon bureau et mon objectif, je me dis, Hélène, il faut que tu te détendes, sinon ça va pas bien se passer. Et je me fais la suggestion de me détendre après, voilà, en auto-hypnose. Donc votre suggestion, mais vous pouvez vous mettre plusieurs suggestions, c'est votre objectif de l'auto-hypnose. C'est tout.
Je vous remercie. Il vaut mieux quand même, pour l'auto-hypnose, prendre des formations ou quelque chose.
Non, il faut avoir, comme elle dit, fait une séance avec un hypnothérapeute pour avoir le bon déroulé, bien comprendre comment ça se passe, parce qu'il faut vraiment faire le recueil de données soi-même, le VACO. Il y a tout un tas de techniques qui vous amènent en transe hypnotique et après, il faut en ressortir. Et il suffit d'une ou deux fois juste l'avoir ressenti. Et quand vous l'avez ressenti, vous pouvez vous le provoquer tout seul, en fait, après. Mais il faut l'avoir vécu avec quelqu'un qui sache bien vous montrer comment ça fonctionne.
Je vous remercie.
Moi, je voulais aborder le sujet du tabac. J'ai levé le doigt tout à l'heure. J'ai fait, oui, une séance d'hypnose pour arrêter le tabac et ça n'a pas fonctionné du tout, du tout. Je voudrais savoir si ça fonctionne parfois.
Vous avez fait une séance ? Ah oui, c'est pas ouais, beaucoup. Bah... Une séance avec un hypnothérapeute particulier. Ah oui. Bah, changer d'hypnothérapeute, je sais pas. Voilà. En fait, c'est pas que celui-là n'est pas bon, c'est qu'en interaction avec les gens, il peut y avoir quelque chose qui se passe ou quelque chose qui se passe pas. C'est peut-être pas la bonne personne pour vous faire arrêter le tabac, ou peut-être qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas tout à fait dans l'attente d'arrêter le tabac, ou il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas... Non. Peut-être que maintenant que vous en avez parlé et que nous vous avons suggéré que ça va fonctionner à la prochaine séance, peut-être que ça fonctionnera.
Oui, justement, c'était un peu une question. Est-ce que ça marche, entre guillemets, sur tout le monde ? C'est-à-dire, est-ce que tous les sujets ont la même réceptivité, je dirais, ou en tout cas peuvent utiliser cet outil-là ? Ou est-ce que vraiment, il y a des personnes chez qui ça ne pourra jamais fonctionner ? Enfin, voilà.
Moi, je crois que c'est une question un peu difficile. Il y a quelques années, en tout cas... Il y a des choses qui ont un petit peu évolué dans l'enseignement de l'hypnose. Il y a quelques années, il y avait une grille d'évaluation pour savoir si les gens étaient réceptifs ou pas. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Enfin, il y avait une sorte de score. Bref. Ça, on sait que ce genre de grille d'évaluation, ça ne marche pas. Après, effectivement, par rapport à tout ce qu'on a dit et aux expériences des uns et des autres, on peut quand même penser que tout le monde peut être sensible à l'hypnose. Après, plus ou moins... et puis il y a la question de la rencontre entre deux individus, la question du contexte, la question de la motivation de la personne qui souhaite se servir de l'hypnose. Donc il y a vraiment un ensemble de facteurs qui font que ça va marcher, mais plus ou moins. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça ne marche pas du tout, parce que même chez les gens qui se disent hyper cartésiens, hyper tout ce que vous voulez, les matheux, les ingénieurs, voilà. On apprend quand même que c'est peut-être le plus facile à mettre en transe parce que c'est une autre forme de transe et ils ne s'en rendent pas compte. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que ça ne marche jamais. On a cité nos exemples de cadres professionnels personnels. En anesthésie au bloc opératoire, l'objectif, il est bien la réalisation d'un soin. Donc, quand vous êtes dans un bloc opératoire, en général, c'est pour une opération. Le but, c'est que l'opération se, fonctionne. Donc nous, comme je l'ai signalé, on a des moyens qui sont assez simples, qui sont des moyens pharmaceutiques en plus de l'hypnose. Donc ça, ça marche forcément. Mais comme je l'ai dit, il faut toujours positiver après, même si on a fait une anesthésie générale classique, entre guillemets, avec des produits pharmaceutiques. Il y a toujours eu une expérience. Il y a toujours quelque chose à retirer de cette expérience. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas dire que ça ne marche pas ou en tout cas que, qu'il n'y a pas d'intérêt à cette expérience-là. Je pense que c'est surtout ça, la grande leçon. C'est qu'il y a toujours une... Comme, c'est toi qui utilises la métaphore des graines, justement, je crois. Il y a toujours une petite graine qui a été plantée quelque part. Donc, cette graine-là, elle poussera peut-être plus ou moins ou plus tard, mais il y a toujours ça. Ça me semble assez fondamental. Donc c'est une réponse un petit peu en demi-teinte, mais je pense que c'est quand même des notions importantes. Et ça peut rejoindre peut-être la question précédente, c'est-à-dire que c'est pas... Vous avez l'impression que ça n'a pas marché, mais il s'est peut-être déjà aussi passé quelque chose. Peut-être que bientôt, vous aurez envie d'y retourner, ou même sans y retourner, chez un hypnothérapeute, hein, je parle, et il va se passer quelque chose.
Mais si vous me posez la question, c'est que ça travaille déjà.
Voilà, c'est ça. Une autre façon d'exprimer.
Je reviens juste sur ce que vous disiez par rapport à l'auto-hypnose. Vous disiez il suffit d'avoir fait une séance d'hypnose pour après pouvoir pratiquer l'auto-hypnose. Mais alors,
j'ai pas dit il suffit, j'ai dit
c'est possible.
Il vaut mieux avoir fait une séance d'hypnose avec quelqu'un pour comprendre le déroulé et mieux se l'appliquer à soi-même.
Ouais, mais le cheminement après, du coup, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on est allé en hypnothérapie. Pour pratiquer l'auto-hypnose après, la démarche, quelle est la démarche en fait ?
Votre démarche à vous ?
Personnelle.
Bah déjà, c'est de fixer votre objectif. Quel est votre objectif ?
Oui, mais après... est-ce qu'un hypnothérapeute, si on est allé le voir 3-4 fois,
il peut, et
on va après aller le voir une cinquième fois, on va lui demander, bah, tiens, est-ce que vous pourriez me guider pour que je puisse pratiquer l'auto-hypnose ?
Vous pouvez aller voir un hypnothérapeute en lui demandant, mon objectif, c'est de réaliser de l'auto-hypnose parce que je veux être autonome. Voilà. Je viens vous voir pour apprendre l'auto-hypnose. Ça peut être votre première consultation.
Ça peut être la première.
Oui. Ouais, ouais. Okay. Mais il faut que votre auto-hypnose ait un objectif.
Ah ouais, ouais.
Voilà, c'est pas quelque chose pour. Enfin, il faut que voilà, il faut que ça soit. Votre objectif, c'est d'apprendre l'auto-hypnose pour pouvoir vous l'appliquer à vous-même dans un certain cadre. Voilà.
D'accord.
Mais ça fait partie d'ailleurs des. Enfin, de quand on regarde sur les sites internet des gens qui font de l'hypnothérapie, ils disent. Apprendre l'auto-hypnose, enfin, ça fait partie de leur cahier des charges, entre guillemets. On peut être autonome, oui.
D'accord.
Oui, pour compléter, dans l'auto-hypnose, effectivement, on l'a abordé tout à l'heure, il y a en fait toute une sorte d'un protocole qui vaut mieux avoir vécu à l'avance et puis s'être fait expliquer pour pouvoir se l'appliquer soi-même. Et donc, on parlait de l'auto-suggestion. L'auto-suggestion s'inclut dans ce protocole. Il y a vraiment un protocole. Le VACO, par exemple, ça fait partie du protocole. Passer par les cinq sens, en commençant par le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Et puis, quand je dis protocole, c'est que c'est, sans être très strict, il vaut mieux qu'il y ait une façon de faire, une règle, pour que ça fonctionne. Surtout quand vous allez dans cette auto-hypnose. On démarre d'une certaine façon, on continue comme ça, et puis on va vers l'objectif, on se fait son auto-suggestion, et puis on revient en arrière. Il y a vraiment tout un cycle dans cette auto-hypnose qui fait que ça va être efficace, surtout quand vous allez être tout seul pour le faire. Alors dans les premiers, moi j'aime bien historiquement, dans les premières publications scientifiques qui avaient été faites sur l'auto-hypnose, ça avait été enseigné il y a déjà assez longtemps, ces expériences, dans les services de grands brûlés, qui sont les premiers pansements chez les grands brûlés sont très douloureux, ils se font souvent sous anesthésie générale. Et puis après, au fur et à mesure, on peut diminuer les doses de produits et la profondeur de l'anesthésie générale. Mais il y a eu des publications et des expériences qui ont été faites et qui étaient vraiment très intéressantes. C'est que les patients ont pu apprendre l'auto-hypnose et très rapidement devenaient autonomes parce que les pansements de grands brûlés, ça dure souvent des semaines. Et très rapidement, c'est des patients qui s'autonomisaient et qui apprenaient l'auto-hypnose et très rapidement se passaient des anesthésies pour ces pansements vraiment très douloureux. Donc ça, c'était vraiment... Il y a eu des publications scientifiques là-dessus très, très intéressantes. Et ça montre bien, ces publications, que c'est efficace et qu'il y a moyen de faire. Mais le protocole est important. C'est pas, on a parlé tout à l'heure d'improvisation, c'est aussi important. Mais quand vous faites l'auto-hypnose, c'est bien d'avoir effectivement un objectif et une façon d'arriver à cet objectif.
Oui, moi, je voulais savoir s'il y avait des contre-indications à l'hypnose, notamment sur des états psychiques ou psychiatriques.
Oui, c'est une
quand on parle de la dissociation.
Enfin, moi, je suis formée que hypnose et douleur aiguë et on nous a bien expliqué qu'il ne fallait pas pratiquer d'hypnose sur un patient qui est psychiatrique, surtout un patient psychotique ou un schizophrène, etc., puisqu'ils sont déjà, eux, en état dissociatif. Voilà. Par contre, la communication thérapeutique et le langage verbal, paraverbal fonctionnent très bien, mais il ne faut pas faire de dissociation. En tout cas, voilà. Après, les psychiatres font de l'hypnose chez ces patients-là, mais ils ont une autre formation que nous.
Merci beaucoup, c'est encore moi. Du coup, on est venu à plusieurs ce soir, nous, pour se présenter, parce qu'on est tous des thérapeutes dans le milieu libéral. Donc, moi, en tant qu'ostéopathe, Sandra en tant qu'infirmière, et Marine en tant que psychologue, Nolwenn en tant que kinésithérapeute, et Alison en tant que sage-femme. On s'est tous formés à l'hypnose ericksonienne pour utiliser un moyen pour aider au maximum nos patients. Et on a décidé, en fait, nous, dans notre milieu libéral, de se regrouper, entre guillemets, pour qu'on ait des compétences partagées, donc chacun dans son domaine, et qu'on puisse créer un réseau interprofessionnel en hypnose ericksonienne. Et ce qu'on trouvait intéressant en venant ici ce soir, c'est déjà se présenter à vous, et également de savoir comment on pouvait faire, ou si vous aviez déjà aussi envisagé de travailler aussi avec le milieu libéral, parce que vous êtes plusieurs dans une enseigne, et nous, en tant que libéral, c'est un peu, par exemple, moi, tout simplement, quand j'ai fait ma formation en douleur aiguë, ensuite douleur chronique, je me suis retrouvé tout seul. Et après, j'ai fait, j'ai pas d'aide. Alors que vous avez potentiellement des collègues, des... Et donc, si je trouve intéressant...
Nous, on n'a pas le droit, comme on a l'hôpital public, de donner les cartes de soignants. On n'a pas le droit de faire de pub, ça, c'est sûr. Après, ça n'empêche pas que des fois, on le fait quand même. Mais on ne peut pas distribuer des coordonnées d'un praticien, parce que sinon, on n'a pas... d'autorisation. J'imagine que vous, c'est pareil.
On nous demande très souvent. Donc, nous, dès qu'on a des noms...
Nous, après, on donne.
On donne. Voilà. Hein, donc, si vous nous donnez vos noms, on donne.
Mais...
Parce qu'en fait, on était en train de penser à faire un regroupement.
Ouais, voilà. On va faire faire un annuaire.
Moi, j'ai fait la formation avec Véronique Julot. Ouais. Et du coup, elle m'a dit qu'il y avait parfois des réunions... des intervisions peut-être où il serait peut-être éventuellement possible de s'incruster
au moins on a invité Isaac Carpap si vous voulez c'est le 10 octobre la prochaine
d'accord ok cool merci mais du coup oui peut-être c'est l'occasion de se rencontrer un peu plus et puis
je vous laisse mon mail
et puis du coup d'en profiter pour dire
après,
que
sur les pages jaunes il y a marqué que vous pratiquez l'hypnose c'est noté vous n'avez pas le droit
mais du coup c'était aussi l'occasion de dire que l'hypnose se pratique pas que
à l'hôpital.
Et du coup il y avait un bon exemple de sage-femme qui a l'air super.
Ouais, ça c'est. Je suis d'accord, ça redonne envie d'être enceinte. C'est vrai.
Mais du
c'est
coup,
trop tard pour moi.
Mais du coup, en libéral, il y a aussi la possibilité de même pour des petits actes qui peuvent paraître courants chez certaines personnes, comme les prises de sang, peuvent être accompagnées aussi en hypnose facilement dans la région aussi, ici. Quoi.
Comme ils n'avaient pas fait les petites affiches pour l'abribus, on pourrait peut-être mettre leur nom sur l'abribus pour le prochain.
Comme ça, quoi.
En 4 mètres par 3, quoi.
On va peut-être encore prendre une ou deux questions s'il y en a et puis essayer de tenir un timing un peu raisonnable à cet horaire, ce qui n'empêche pas ceux qui le souhaitent de continuer à discuter après. Hein, mais... Je ne sais pas s'il reste une ou deux questions.
Non, je voulais rebondir, mais je crois que la dame est partie sur la séance unique pour l'arrêt du tabac. Moi, je viens d'arrêter de fumer avec deux séances. Et je suis absolument sidérée. Parce que je ne pensais pas que c'était possible. Plus de 35 ans de tabac, à peu près un bon demi-paquet par jour. Donc voilà, je m'estimais très, très, très accro. Et en deux séances, terminé. J'y pense même plus. Ça fait 15 jours et des fois, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, j'ai fumé. J'ai trouvé ça spectaculaire. Donc je vais continuer pour d'autres choses.
Et justement, à la clinique mutualiste, il y a une infirmière qui fait hypnose et en l'addiction. Et c'est vraiment quelqu'un d'agréable et qui m'a donné envie de faire du sport maintenant.
Alors, c'est parfait puisque ça nous offre la transition vers le prochain rendez-vous santé qui est sur les addictions. Donc le 5 décembre. Voilà, merci à tous. Et puis bonne fin de soirée et bonne continuation surtout.